Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Ça fait longtemps qu'on vous le promet, le podcast sur le financement participatif, qu'on appelle aussi le crowdfunding, le financement par la foule. Ça fait longtemps comme ça qu'on vous en parle, et puis moi à chaque fois je vous dis, moi je sais pas, personnellement je suis pas compétent. Et pour en parler, parce que je n'ai jamais testé l'aventure, et il se trouve qu'aujourd'hui on a des gens compétents que vous avez déjà entendu dans un podcast précédemment. Il s'agit de la team Shan qui est avec nous. Julien, ça va?
Salut, ça va bien.
Vincent de chez Sci-Fi Universe est également de la team Shan, auteur de Shan Renaissance entre autres.
Et voilà, multi-casquette.
Et puis nous sommes également avec Marc, testeur, playtester sur Shan. Et vous, justement, la team Shan, il se trouve que vous êtes passé par la souscription, par le crowdfunding, par le financement participatif. Et ce que j'aimerais bien aujourd'hui, c'est que vous nous donniez comme ça déjà, pour la cellule, un premier retour d'expérience. Vous avez déjà des chiffres, vous avez des ressentis sur ce que ça vous a permis de faire, ce que ça vous a pas permis de faire. On va voir quels sont les avantages de ce mode de financement et quels en sont également les défauts. On essaiera aussi de parler des dérives, de vos comportements vous-même en tant que backer, c'est-à-dire en tant que personne qui participe ou pas à ces nouvelles plateformes, et puis également en tant que personne qui propose des choses sur ces plateformes. Alors, la première chose, c'est votre expérience. Déjà, première question, j'ai envie de vous poser, c'est comment, à un moment donné, vous vous êtes dit, pour Shan, on va passer par du participatif? Comment, pourquoi?
Pourquoi? Parce que ça, ce qui est peut-être important pour éviter de faire les hypocrites quand même au départ, c'est de préciser qu'on est à titre personnel pas fan du financement participatif.
Ah. Moi j'aime bien, mais
non, voilà. Enfin, déjà il va y avoir des débats.
Tu ne souscris pas?
Non.
Voilà.
Ah, d'accord. Ok. Ouais, il aime bien, mais il ne souscrit pas. Ça veut dire qu'il aime bien personne qui présente des projets sur le financement participatif.
Sur le principe participatif, j'aime beaucoup.
T'aimes beaucoup.
Le côté précommande plus.
D'accord. Ok. Ok. Alors, comment, pourquoi le financement participatif?
Pourquoi pour Shan? Au départ, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup travaillé avant de proposer le jeu en souscription, et que quand le jeu a été proposé en souscription, il était déjà écrit. 80-90%, quoi. Il était écrit. Il n'était pas maquetté, on n'avait pas toutes les illustrations, on avait déjà tout le texte, en fait. Et on a longtemps cherché un modèle de financement classique en passant par un éditeur. Voilà. Merci. En l'occurrence, Cielo, qui va distribuer Shan, en fait. Mais bon, au départ, on était aussi, il avait été envisagé de passer par eux pour financer Shan Renaissance. Et le truc, c'est que voilà, Shan Renaissance, c'est un livre de base et c'est 4 suppléments. C'est voilà.
C'est un tout.
C'est un tout, en fait. C'est-à-dire, au départ, c'était.
Attendez, est-ce qu'il y en ait 10 en fait, ou 3?
Bien pensé.
Voilà, au départ, c'était un livre de base de 800-900 pages, quoi, si tu veux. Mais bon, c'était pas. Il paraît que c'était pas sérieux. Un livre de base de 800-900 pages, c'était pas possible.
Non,
voilà. Donc du coup, un livre de base et 4 suppléments. Et pourquoi proposer ça? Ben justement parce que sortir uniquement le livre de base, c'était ne sortir que un peu moins de la moitié du jeu tel qu'on l'avait conçu, et qu'on avait besoin d'avoir une assurance de pouvoir tout sortir. Yellow nous proposait de financer le livre de base, et en fonction des ventes du livre de base, potentiellement
d'aller
plus loin. Mais voilà, il y avait ce potentiellement qui était gênant, en se disant voilà, si on sort le livre, que ça n'intéresse pas forcément le grand monde ou que ça se vend moyennement bien, et ben du coup il restera plus de la moitié de ce qu'on a fait en stand-by, enfin qui n'aura pas de concrétisation en format physique. Ouais, le format physique était très important pour nous.
Il était toujours possible de le faire sous forme de PDF, bien sûr, sur le site.
Mais c'était, oui, je dis ton nom à chaque fois que tu parles pour que les auditeurs reconnaissent ta voix.
Excuse-moi. Ouais, le rêve à la base, c'était l'objet physique. Ouais, parce que le PDF, qui est un super outil, mais rien ne vaut un beau bouquin.
Donc finalement, vous êtes passé par le participatif pour être indépendant, en fait. Pour être indépendant d'un éditeur et pas être soumis à ses exigences d'ordre économique.
Alors, c'était pour financer le projet à la base, parce que l'éditeur, c'est Ori Games,
ouais,
la société,
ouais,
dans laquelle
toi.
Je travaille avec Igor.
C'est toi, Ori Games, donc t'es indépendant. Oui. C'est ta maison d'édition, c'est toi.
C'est pas moi aussi qui prends les décisions. Enfin,
oui,
tu vois,
c'était quand même une grosse somme.
Ah, mais c'est Igor, attendez.
Non, c'est pas Igor et Julien travaillent pour Ori Games, mais je veux dire, c'est pas eux qui décident.
C'est pas le projet principal.
Ori Games, tu me rappelles la forme que ça en termes.
C'est une scope.
C'est une scope. Voilà, on est bien d'accord. Donc c'est vous qui décidez
et
tous.
On était bien d'accord tous au départ que le jeu de rôle, ça restait du loisir pour nous. C'est une passion et un projet entre moi et Igor et qui n'a pas de place sur notre...
C'est le jeu de rôle, le travail, c'est le travail.
Exactement.
Quoi.
Ouais. D'accord. Non, mais vraiment, c'était clair dès le départ là-dessus.
D'accord.
Et Sean, tout le travail qu'on a effectué dessus, la plupart, c'était sur le soir et le week-end. Quoi. On vit la nuit pour écrire Sean.
Alors, on n'a pas fait Sean.
Vous nécrosez pour écrire Sean, finalement.
C'est-à-dire, en fait, au départ, on ne l'a pas fait pour payer notre jet ou notre Ferrari, si tu veux. On l'a fait pour avoir un livre. Des livres.
C'était votre rêve de.
C'était notre rêve de gosse. Au travail, au départ, c'est un boulot de fanboy, quand même, tu vois. Ouais.
Au départ aussi, c'est le boulot d'une communauté. Aussi. C'est l'envie d'une communauté. Au fur et à mesure que le travail a avancé, les énergies se sont un peu épuisées, la communauté effective s'est réduite.
Plus on demande de texte, en général, moins il y a de personnes à participer. Ça, c'est une constante.
Il faut se mettre
constante.
À la rédaction, ça devient compliqué. Les idées s'affusent.
Et une question un peu naïve, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait éditer le livre de base et peut-être potentiellement se garder le participatif pour les suppléments
Vous n'avez pas de thunes, c'est ça ouais. C'était une question de thunes en fait, ouais. C'est une question de sous. Mmh. Ils veulent faire un livre en couleur.
Ouais, c'est ça. Ouais,
tu vois, ils ont des présents. Parce qu'il faut savoir que Sean, donc si vous avez écouté, je vous invite vraiment à écouter le podcast One Shot sur Sean et puis plus loin encore le podcast qu'on avait enregistré avec Igor sur Sean. On a beaucoup parlé de Sean sur la cellule. C'est un jeu qui nous plaît beaucoup. La couleur est indispensable à ce jeu. C'est-à-dire que, évidemment, on en parlait hein, dans le podcast One Shot, mais il y avait des dés, je sais plus, c'était jaune, rouge, bleu. Il y a de la couleur dans Sean. C'est important.
L'idée aussi, c'était de mettre toutes les illustrations de la première édition qui étaient déjà superbes en noir et blanc et de les mettre en couleur et de redonner une couleur à Sean qui, c'est un monde coloré.
Une salade de fruits. Ouais.
Et puis d'annoncer la couleur aussi dès le départ.
D'annoncer la couleur. Il est beau. Oh, magnifique. Magnifique.
Elle est tombée du ciel.
Elle est tombée du ciel.
De dire, Sean, c'est pas juste un livre de base, c'est un corpus, c'est 5 bouquins.
Et donc la souscription pour récupérer. De quoi financer
la fabrication.
Déjà.
De quoi financer la fabrication. De la gamme complète.
D'accord. Donc quand tu souscrivais à Sean. Peut-être que c'est encore le cas.
C'est fini.
Ah bah c'est bien comme ça, on va vraiment pouvoir voir toutes les évolutions. Ça c'est très intéressant. Tu souscrivais pour tout quoi.
C'est ça.
Ça devait être excessivement cher.
Il y a plusieurs packs.
Voilà. Parlez-nous de ça. Comment ça marche? Vous êtes allé chez qui
On est allé chez nous.
C'est-à-dire qu'on
n'est pas passé par une plateforme comme Ulule ou Kickstarter. Qui sont les deux plateformes les plus connues. C'est Julien donc, qui a programmé sur le site de Sean une plateforme de souscription. Puisque ça nous permettait à nous d'oublier la participation d'Ulule.
Nommer le pourcentage que prend Ulule.
Putain, c'est génial, vous avez créé votre...
Et d'adapter aussi la souscription à ce qu'on voulait vraiment faire. Et de pouvoir l'adapter aussi en fonction de ce que les souscripteurs voulaient. Mmh. Parce que ça, on a eu toute totale liberté du coup là-dessus.
Bien sûr, hein.
On n'est pas les premiers à l'avoir fait. Hein. Black Book l'a fait sur son.
A fait créer sa propre plateforme.
C'est sur leur site internet que.
Pavillon Noir et Polaris.
C'est ça.
Ouais. Donc le Polaris de Tessier, c'est ça et non pas de Ben Lehmann. Il ne faut pas confondre parce que. Voilà, on parle souvent de Polaris de Ben Lehmann, donc on essaie de.
Polaris sous l'eau.
Voilà, Polaris sous-marin. Ulule, Kickstarter, peut-être rappeler ce que c'est, qui veut se lancer.
Alors, ce sont des plateformes de financement participatif, c'est-à-dire qu'ils proposent toute l'infrastructure sur Internet. C'est-à-dire que toi, tu déposes ton projet et voilà, les gens peuvent souscrire dessus. En fait.
Alors, c'est vrai qu'on n'a pas pris le soin de définir ce que c'était que le financement participatif.
C'est
peut-être important parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas.
Normalement, alors le financement participatif, tu proposes un projet.
Tu dis, je veux faire salade de fruits.
Un projet d'intérêt collectif. Tu ne peux pas dire je vous propose de financer ma propre piscine.
D'accord.
Ça, je sais que sur Ulule, c'est pas possible. Il y a forcément un intérêt, voilà. En général, sur de la création, ça peut être du jeu, du cinéma, de la musique, voilà, ce genre de choses. Tu proposes un projet. Et les gens souscrivent à un projet, c'est-à-dire aident à financer ce projet. À la base du financement participatif, c'est ça. C'est-à-dire que tu aides à financer un projet. La contrepartie, qui est devenue aujourd'hui institutionnelle, à la base, c'est quand même optionnel. C'est-à-dire que tu aides juste, quoi, financièrement à ça. Maintenant, c'est vrai que tu as tout un système de contrepartie qui font que la nuance entre le financement participatif et la précommande est quand même floue, quoi.
Moi, je croyais que c'était forcément avec des contreparties, en fait.
Non, parce que tu peux avoir des systèmes de prêts.
Julien.
Tu peux, où c'est, les gens vont prêter de l'argent pour un projet, pour qu'il se réalise. Tu peux avoir un système de, comme d'actionnariat. C'est que tu t'achètes des actions.
Ah oui, c'était My Major Company qui faisait ça. Où t'avais, tu finançais des artistes. Et en fait, tu devenais actionnaire de leur succès. C'est-à-dire que s'ils vendaient beaucoup de, c'est comme si t'avais des, s'ils vendaient beaucoup de CD après, c'était comme si t'avais des actions. Ah oui, exact. Il y avait ça aussi.
Et t'as le système avec contrepartie où là, tu, logiquement, tu vas investir dans le projet, mais récupérer un objet de la valeur. Ah, donc là, pour Shahan, si tu achètes un livre, c'est que tu vas mettre, là, pour nous, 49 euros, par exemple, pour le livre de base.
D'accord.
Tu achètes le livre de base. C'est-à-dire que si le palier de financement est atteint, on t'envoie le livre de base une fois qu'il est fabriqué.
D'accord. Et vous vous engagez à... Voilà. C'est vraiment plus de la souscription, finalement.
Nous, on n'a pas les conditions de vente de Ulule. C'est le site Shahan, donc on a nos propres conditions de vente. Mais tu vois, sur Ulule, par exemple, si on prend les souscriptions pour le cinéma... En général, sur le cinéma, à partir de 15 euros, tu avais une souscription en contrepartie, tu recevais le DVD du film. Si tu donnais moins de 15 euros, tu donnais moins de 15 euros sans contrepartie, en fait. Tu soutenais juste le projet, quoi. Tu faisais que la contrepartie n'était pas obligatoire.
D'accord.
Mais sur ces plateformes-là, tu soutiens un projet. D'accord. C'est-à-dire que le projet peut très bien ne pas se faire pour des raisons X ou Y. Tu n'as pas, il n'y a pas d'obligation de résultat par rapport au projet que tu as soutenu. Donc eux, leur boulot, c'est de vérifier que ces projets sont crédibles et faisables, si tu veux.
D'accord.
Mais voilà.
Ils contrôlent rien, non ?
Ah si,
non,
parce que Ulule, l'avantage quand même, c'est que déjà pour un projet, c'est que tu vas dire il me faut 10 000 euros, par exemple, pour pouvoir réaliser mon projet. Donc les gens vont participer en donnant des sous à Ulule. Ils payent de leur poche Ulule. Une fois, si le palier est dépassé au terme, donc il y a une durée fixe aussi sur Ulule. Donc je crois que
t'as un mois pour rassembler tous tes trucs. Enfin, je sais pas un mois, mais oui, voilà, c'est ça.
Deux, trois mois en général. Et si le palier est dépassé, quand le projet arrive à terme, Ulule envoie les sous qui a créé le projet.
Que si le projet est dépassé.
Si le projet n'est pas.
Et sinon, les gens ne sont pas débités. Et le projet n'est pas.
Ulule rembourse ceux qui ont participé.
Ah, ils remboursent. Qu'est-ce qu'ils font de l'argent entre dans les boursicotes des salopards.
Mais le palier est atteint, donc tu reçois l'argent. Mais après, si tu veux, il y a ce que je disais, t'as pas d'obligation de moyens sur le projet. C'est-à-dire, Ulule, par exemple, a pu vérifier que ton projet était sérieux.
Ouais.
Mais toi, t'as pu te planter dans tes devis, si tu veux. Au final, tu reçois l'argent, mais t'as pas assez pour faire ton projet.
D'accord.
Du coup, après, voilà.
Alors oui, après tu peux.
C'est un peu compliqué après.
Il paraît qu'il faut que tu peux demander des suppléments à ce moment-là. Tu peux expliquer ta situation et demander. Alors peut-être
tu
pas sur Ulule,
faire
mais
ça,
sur
mais il y a eu des histoires alors sur Ulule ou sur Kickstarter de projets qui ne se sont jamais faits, de gens qui n'ont jamais été remboursés.
D'accord.
Ça a pu arriver, quoi. Alors après, c'était. Ce qui explique aussi Ulule, si tu veux, c'est que si tu montes ce genre d'arnaque un peu volontairement, c'est une espèce de suicide social, quoi, parce que souvent, c'est tes potes qui souscrivent à tes projets.
Ouais,
tu vois, la plupart en premier. Si en fait, ton projet, c'est du vent et que t'arnaques tout le monde.
Ah oui, d'accord.
Tu vois, c'est.
Et t'as un système de cercle aussi de relations.
Tranchant.
C'est que déjà, ton projet, et il faut que tu convainques un certain nombre de proches.
D'accord, ouais.
Que tu connais de ton réseau à toi, d'investir dedans. Si tu ne convaincs pas déjà tes proches, ça veut dire que ton projet...
Il est mort dans l'œuf. Ouais. Voilà.
Et ensuite, tu as...
Attention à ton micro.
Pardon. Ouais, le cercle suivant, c'est ceux qui pourraient être intéressés par le projet et de la communauté, quoi, grosso modo. Ouais. Et le cercle d'après, c'est bah, tout le reste que tu connais pas.
Enfin, on va peut-être pas parler d'Ulule non plus pendant des heures, mais c'est intéressant.
Ouais, mais c'est, enfin, Ulule, le truc, c'est qu'il bloque à partir du moment où t'as pas un certain nombre de proches qu'on
va essayer
dedans, ouais. Il l'ouvre pas au public.
Au public. Ah ouais, ouais, d'accord. Ah donc du coup, ouais. Okay. Donc il faut s'inscrire sur Ulule en tant que backers. Tes amis doivent s'inscrire sur Ulule. Ah d'accord. Alors, on va peut-être retourner, on aura l'occasion hein, de revenir un petit peu sur tout ça, mais on ne va pas non plus rentrer dans les détails pour le moment. D'abord, si, dans les détails de votre expérience à vous, ça c'est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez mis le projet? Comment vous l'avez réfléchi en amont? Puis ensuite, comment s'est passé quand vous étiez dessus, etc.
Peut-être pour reprendre le, parce qu'on était sur le...
Julien.
Combien les gens peuvent le mettre, pack. Est-ce qu'ils achètent toute la gamme?
Oui.
On était là-dessus.
La base. Tu disais que la base de Shan, c'était 49 euros sur
ouais,
la plateforme.
Ça, c'est si t'achètes.
Avec une garantie que vous allez la recevoir après. En tout cas, le site vous garantit.
Si, le même système de palier. On avait un premier palier à 12 000 euros, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, 12 000 euros. Donc, c'est-à-dire, tant qu'on n'arrivait pas à 12 000 euros, voilà, la gamme ne se faisait pas. Une fois qu'on a passé les 12 000 euros, on s'engageait à faire la gamme.
Mais
et
l'argent
ensuite...
vous était quand même donné immédiatement ou non?
Alors nous, comme on n'est pas justement Ulule, ouais. On a fait ça directement chez nous. Ouais. Les gens donnaient directement, payés à Aori Games, ouais. Notre société d'édition.
Si vous n'étiez pas arrivé à 12 000, du coup, ils auraient donné...
Remboursé. Ah non, justement, on avait un premier palier sur une durée de... Donc les 12 000, c'était sur une durée de 2 mois. Sinon, on passe par PayPal pour le paiement sécurisé.
D'accord. Ouais.
Et PayPal, tu as une limite de remboursement à 8 semaines. Donc, si on n'atteignait pas le palier au bout de 8 semaines, on remboursait tout le monde vite fait pour pouvoir rembourser tout le monde sans se prendre le chou.
Ah oui, puis en plus, ils pouvaient le faire. Chaque backers pouvait faire sa demande. Alors, les backers, c'est les gens qui vous financent. Enfin, c'est les gens qui payent pour vous. Oui. On les appelle comme ça en règle générale. Donc, je les appelle comme ça. Souscripteurs, voilà. Via PayPal, effectivement, ils peuvent demander, faire une demande de remboursement automatique. En plus, c'est PayPal qui se serait chargé de récupérer les thunes chez vous.
En fait, via
PayPal.
Donc,
en fait, c'était vraiment sécurisé votre truc.
Voilà, ils peuvent invoquer un litige, quoi.
Tout à fait. C'était super sécurisé.
Et nous, on a 8 semaines pour pouvoir rembourser les gens tranquillement. Il y a juste un bouton, effectuer le remboursement, c'est bon, quoi.
Et si jamais vous pouvez pas rembourser, là, c'est PayPal qui se charge de vous. Et là.
Oui, après.
Ça fait mal. Ouais, non, mais
ils remboursent automatiquement.
Pour te dire,
PayPal.
Si tu veux, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a il y a le contrôle d'un tiers sur votre travail, qui est PayPal, finalement, dans votre affaire. C'est ça que, là où je veux en venir, c'est que du coup, c'est bien. Alors que tu vas chez Ulule, tu donnes, il y a pas de contrôle de tiers.
Il y a PayPal et Aori Games. Tu vois, c'est pas nous à titre personnel, c'est pas moi à titre personnel, tu vois, qui à la rigueur, je peux dire j'ai
rond,
et puis si ça foire et que j'ai tout dépensé.
Oui,
il y a quand
même
une structure, il y a un éditeur derrière.
C'est vrai, j'ai oublié. Mais c'est compliqué parce que Aori Games c'est un peu vous donc. Enfin,
c'est une structure professionnelle.
C'est juste, tout à fait juste. Alors, donc, tu disais la base à 49 euros.
Les packs, ce que pouvaient acheter les gens, c'est ça allait de 15 euros à 500 euros, je crois. Le 15 euros, tu achètes le PDF du livre de base. Et ensuite, ça va monter en palier progressif. 49 euros, tu avais le livre de base. Ensuite, tu pouvais acheter le livre de base plus tous les PDF de la gamme. Et ça, c'était un premier pack à 100 euros qui donnait accès aux artefacts. C'est-à-dire que si, après on avait un système de paliers, plus les gens participaient, plus il y avait de sous, plus on offrait d'artefacts. Donc les artefacts, c'est quoi? C'est toutes les options auxquelles on tenait beaucoup, nous. C'est le poster d'Eos avec toute la carte du monde. Eos est aussi recto verso, c'est le set de dés, les 4 des Shahan, c'est l'écran de jeu, c'est la couverture cartonnée pour le bouquin de base, c'est les cartes pouvoir,
voilà, le c'est dossier de personnage,
tout un tas d'options,
le jeu vidéo.
Ah mais c'est pas ce que vous m'aviez dit tout à l'heure en préparation du podcast. C'est-à-dire que vous m'aviez dit que la couverture cartonnée, vous l'aviez ajoutée après, par exemple.
Non, c'était un palier à atteindre,
on avait mis très haut. En fait, on avait privilégié justement les dés, le poster, Les cartes pouvoir, je sais plus. Enfin non, ça venait quand même assez vite.
Ah d'accord.
Mais on a.
En fait, c'était un ordre de palier, c'est-à-dire qu'Igor d'accord. pensait que les goodies intéresseraient plus que la couverture
pas
cartonnée.
Que voilà. Parce que nous personnellement, on préférait les goodies en fait.
Ah, d'accord, non, parce que moi, j'étais pas d'accord avec lui. Voilà. Moi, je préférais la couverture cartonnée aux goodies. Et Maillard, d'accord. donc Maillard Chakiri, qui a participé au jeu aussi, était du même avis que moi. Et c'est vrai que la souscription a très très bien démarré et à un moment donné a stagné pendant longtemps et donc du coup on avait trahi Igor pour lui dire il faut que tu baisses la couverture cartonnée, que tu changes les paliers. Et de fait, du jour où il a fait ça, on a eu voilà.
On s'est adapté à la demande parce qu'il y en a pas vrai. Mal sur le forum hein. etc. qui demandait ça aussi.
Ce qui montre que la couverture cartonnée est encore aujourd'hui pour les gens qui font du jeu de rôle un must-have. Pour une base de jeux de rôle. Quoi.
Ou enfin, alors c'est... ce qui montre que les gens ont plus précommandé le livre de base que souscrit à la gamme. Puisque tu vois, 50 euros, alors je comprends, à 50 euros un livre de base avec une couverture souple, on est plus cher que le marché du jeu de rôle, si tu veux. D'accord. 50 euros avec une couverture rigide, on est dans les prix du marché.
D'accord. Et puis c'est pour l'objet aussi, quand même. Parce que nous, c'est aussi notre rêve au départ. Hein. C'est un bel objet, c'est un truc qui pète, quoi. Donc.
Encore une fois, un Shan, c'est un jeu dont le propos exige de la couleur. Ouais. Bah, je veux le dire parce que c'est important parce que nous, souvent sur la cellule, on a tendance à critiquer justement ce que Fabien Hidvine et moi-même, hein, et Frédéric et tout le monde sur la cellule appellent le fétichisme de l'objet. C'est-à-dire que dans le jeu de rôle, il y a cette espèce de fascination pour les beaux livres, etc. Et nous, on a tendance à penser que c'est un peu ce qui a perdu le jeu de rôle aussi. Parce que ça a obligé les éditeurs à monter des affaires impossibles avec des livres, voilà, avec des livres qui coûtaient excessivement cher pour un public qui était extrêmement restreint. Donc nous, on a tendance à combattre ça. Et là, le truc, c'est que vous, ça fait malgré tout la couleur. La couverture cartonnée, honnêtement, c'est gadget pour Shan, mais la couleur, au moins, c'était un impératif du livre.
On est à fond dans le fétichisme de l'objet.
Ouais, alors après, c'est votre problème. Hein.
Non, mais en même temps, on a...
Ça soigne, hein, il y a des médicaments.
Non, mais si tu veux, on a bossé pour le fétichisme de l'objet, si tu veux. On a travaillé... pour avoir au final.
Moi, j'essayais de vous sauver en disant non, c'est trop beau, mais bon, si vous voulez vous griller, c'est tant pis pour vous.
Et même au départ, on s'était dit.
Parce qu'au départ, la couleur était de base.
Ouais, voilà, on n'avait même pas mis de palier noir et blanc. Quoi.
Ah oui, non, mais pour moi, de toute façon, je ne vois pas comment. Shan en noir et blanc, je ne vois pas, en fait, les gars.
Et puis, ça n'avait pas d'intérêt par rapport à la première édition, au final.
Une difficulté, d'ailleurs.
Non, de toute façon, il était de base en couleur. Ça, c'était obligatoire.
On avait déjà les races en couleur et tout, qui étaient trop belles.
Il y avait trop de belles illustrations en couleur.
Bah oui! Scandale. Ah non, mais même, de toute façon, je vois pas comment ne pas mettre de la couleur dans cet univers. Ça fait de l'identité, en fait. Encore une fois, on disait la salade de fruits. C'est sans couleur, une salade de fruits, je vois pas, quoi. J'ai vraiment du mal à voir. Donc, des paliers comme ça, d'accord. Et donc, en fonction de l'argent qu'on vous donne, on obtient plus ou moins d'objets avec notre souscription, quoi.
C'est-à-dire que
des posters.
Plus ça va, plus c'est intéressant. C'est-à-dire que tu vois, au départ, à 50 euros, t'as un livre en couleur couverture souple, tu vois. Ça, c'est au départ quand le premier palier est débloqué. Oh, et putain. À la fin, à 50 euros, t'as un livre en couleur couverture dure, plus des dés, plus un écran, plus un poster, plus
c'est vrai.
Voilà.
Non, c'était à partir de 100 euros de participation.
À partir de 100 euros de participation.
D'accord. Donc là, à partir de là, tu mets 100 boules et après, plus ça monte haut dans les tours et plus toi, tu dis, oh putain, ça vient de monter, trop bien, j'ai gagné un truc. Donc comme ça, vous invitiez les gens à faire votre com pour vous.
Bien sûr, il y a un effet boule de neige.
Ah putain.
On n'a rien inventé. Hein. Oui. On a été pompé chez les autres. Quoi.
Parce que c'est génial. Oh, vous êtes diaboliquement pervers. Mais ah oui, d'accord, vous obligez comme ça à faire...
Il y a des choses dans cette optique de gamme. C'est-à-dire que... Enfin, alors moi, je suis peut-être toujours dans le fétichisme de l'objet. J'aime bien avoir un écran quand je joue au jeu de rôle, tu vois, si tu veux. C'est...
T'en avais pas, ce soir.
Et je pense que de toute façon, même sans passer par la souscription, si le jeu avait marché, on aurait fini à un moment ou un autre par proposer un écran. Donc du coup, c'est comme ça, c'est fait, c'est dans le pack. Enfin bon, voilà. Ouais. C'est...
D'accord.
Et le fait d'avoir développé vous-même la plateforme, là, ça vous a permis d'adapter aussi les packs en cours de route,
oui.
En réponse
D'ajouter de nouveaux packs,
Modifier l'ordre des packs.
Aux demandes qui étaient faites sur le forum, du coup.
C'est pareil, une grosse demande sur le livre collector. Là, avec la
solo.
Couverture épaisse, 6000 cuir, voilà, en solo.
En
juste
solo, ouais.
Juste le bouquin en version collector. On a rajouté un pack uniquement pour ça.
En cours de route, ouais.
Alors, votre expérience là-dessus, qu'est-ce que ça a donné au final, Ça a bien marché, ça.
Bah, ça a marché, la gamme a été souscrite. Couverture dure, des nouvelles illustrations, des dés, un écran, des cartes pouvoir.
Voilà. Vous êtes arrivé au palier maximal finalement.
Non, il n'y avait pas de maximum, si tu veux. Mais... ça, ouais. Disons qu'on était arrivé au maximum le plus intéressant, quoi. Après, bon,
c'était du bonus. Bah, déjà, c'était que du bonus, même. Parce que là, on est arrivé à 30 000 euros. Sur le, en, au total, ouais. Sur à peu près 200 souscripteurs.
Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Et attends, ça fait une moyenne de combien par souscripteur?
Ça fait une moyenne assez élevée, autour de 150 euros.
Oh,
et parce que beaucoup de gens ont pris les.
Plusieurs
parce
packs.
Parce que c'était des packs qui correspondent au cast, donc c'est des packs de l'érudit, c'était justement toute la gamme en physique. Donc les 5 livres. Qui était dans ces eaux-là à 150 euros. Et beaucoup de gens ont pris directement la gamme, ont souscrit directement à la gamme.
Ah, d'accord, ok. Bah, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de ventes de sens pendant cette période-là, parce qu'en fait, les gens venaient donner leur argent chez vous. D'accord.
C'est le truc, hein, c'est aussi comme ça, ça se démocratise beaucoup chez beaucoup d'éditeurs, les souscriptions. Si tu veux, si tu commences à faire les souscriptions les uns en même temps que les autres, si tu veux, c'est. Enfin, t'as une concurrence, quoi, vraiment. Quoi.
Ouais,
nous, on s'est retrouvé un peu tout seul à ce moment-là à faire une souscription.
Moi, je miserais plutôt sur l'inverse. Sur l'effet d'entraînement, c'est-à-dire que tu fais une souscription, allez tiens, je vais en faire une autre, je suis plus à ça près. C'est comme un grand magasin.
Alors,
quand tu vas dans le grand magasin, t'es tenté par plein d'objets auxquels t'aurais pas pensé s'il n'y avait pas été.
Attention, c'est pas des petites sommes, hein, c'est pas des souscriptions à 30-40 euros, tu vois. Là, on a une moyenne à 150, tu vois, ça commence à.
Ouais, c'est un investissement quand même.
Putain, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont en filer, mais max pognon, quoi. Bah, qui tirent les gens vers. Et qui tirent les moyennes vers le haut.
On a eu par exemple une dizaine de packs artistes, donc c'était à peu près le top level, il y a eu un pack chahaniste au-dessus. Le pack artiste c'était donc toute la gamme avec le bouquin collector.
Ça coûtait combien? Le mec qui a souscrit à ça, il a coûté
400 euros je crois.
Oh, putain, il y a un gars qui vient dépenser 400 euros chez vous.
400
quoi.
Euros, faudrait vérifier.
Ouais, par là, ouais.
Et y avait.
Et c'est toi, Julien, qui a payé 400 euros pour avoir le. Non, mais attends, ouais, qui est-ce qui peut te donner
Marc en a pris une.
Marc, t'as pris 400
euros. Un pack artiste, moi.
Et le plus de ce pack-là, c'est
fou.
Ça nous permet aussi de financer ce qui est le plus cher, en fait, dans les jeux de rôle, c'est les illustrations. Et là, c'est en fait, ça incluait une double page avec du background, donc d'un perso, d'un lieu, à l'idée de celui qui souscrivait, du souscripteur, plus une illustration sur commande en couleur, pleine page.
Ah d'accord, donc là, il y a carrément un illustrateur, Marc, qui a bossé pour toi, qui a fait ton perso.
Potentiellement, oui, tout à fait. Hein. Pour l'instant, c'est pas, hein, parce que...
D'accord.
C'est en cours, mais ce sera son perso test, justement,
voilà.
De la campagne.
Ouais, avec illustration et texte, et un côté participatif.
Voilà, c'est vraiment le truc du fétichisme de l'objet puissance max, parce que du coup, t'as un truc qui est uniquement pour toi.
Mais moi, c'était surtout aussi, c'était un soutien, un projet.
Pour un personnel, parce que c'est Julien.
C'est quelque chose que tu trouves beaucoup, beaucoup dans les financements participatifs, tu vois. De mémoire, il me semble, la souscription pour Pendragon. Il me semble, ou un des suppléments Pendragon, tu devais avoir une reproduction d'Excalibur proposée dans les paliers maximum, qui avait été prise, achetée par quelqu'un.
Putain, c'est ouf comme truc.
Le goodies.
Système de bagues, non aussi, avec,
attention à ton micro, Julien.
Non, les lames du cardinal, ça avait été des précommandes.
Ah oui.
Mais t'as souvent des goodies hein, comme ça qui sont.
C'est impressionnant.
Ce qui intéresse. C'est c'est ça. C'est pourquoi plus acheter en souscription qu'en boutique? Parce qu'en souscription, tu as du goodies.
C'est impressionnant.
Le fétichisme de l'objet, là, du coup. Hein.
Ah ouais, non, mais plein la gueule. C'est-à-dire que là.
Ouais, mais là, on a aussi quand même eu beaucoup le côté, justement, comme Marc, de soutien à un projet vraiment.
Ouais, beaucoup de potes aussi à vous qui ont fait l'effort de vous donner des sous pour récompenser une passion que vous avez depuis des années, quoi.
Parce que dans la courbe des
potes. Des potes, hein.
Oui,
il y a vraiment des gens qu'on ne connaissait pas et qu'on a après
connus
sur le forum officiel qui étaient, qui soutenaient le projet, quoi.
Bien sûr. Mais si on regarde la courbe des participations, il y a beaucoup de gens qui participent au début. Donc là, c'est plutôt les proches, les gens qu'on connaît ou qui suivent le projet, les membres de la communauté. Il y a une grosse stagnation après pendant un moment. Et en général, ça monte en flèche sur la fin. Et là, on a eu un finish de malade, mais c'est souvent sur les souscriptions. Hein.
Parce que vous étiez donné combien de temps pour tout ça?
3 mois.
3 mois, ouais. Donc il y avait la barrière des 2 mois pour passer le premier palier, et après ça passait à 3 mois.
Pourquoi tu penses qu'il y a eu un fini sur la fin, ça...
Parce qu'il y a eu un... Enfin, je veux dire, les derniers jours, c'était c'est des milliers d'euros.
Les gens se décident au dernier moment.
Voilà, on attend le dernier moment pour voir si c'est intéressant aussi, si justement il va y avoir des goodies, des machins.
Je sais pas, c'est les derniers jours, c'est peut-être 7-8 000 euros en 2-3 jours.
C'est même quoi. Genre 10 000.
Ouais, c'est ça. Mmh.
10 000 sur la fin, ouais. En 3 jours, 3-4 jours.
Alors en tout, ça vous avait permis de gagner combien
30 000.
Ça veut dire qu'il y a... Attendez. Putain, mais vous me faites... C'est quoi ces chiffres de fou?
Il y a à peu près un tiers...
Il y a 30% des gens... Il y a 33% des gens qui se décident au dernier moment, ouais, final. 33% de l'argent que vous avez récupéré,
oui, parce que
vous l'avez récupéré dans les 3 derniers jours de la souscription.
Plus ça va, plus c'est intéressant.
Oui. Putain, c'est impressionnant.
Et
c'est
la même chose sur les ventes aux enchères, ou genre sur eBay ou des trucs comme ça.
Oui, c'est vrai, tu me diras, je suis bête.
Genre, t'as le dernier moment pour...
Tout à fait.
Enfin, là, c'est pas le même principe, mais... Mais quand même, ils voient jusqu'où va le projet, je pense, ils observent pendant la durée de la souscription, et à la fin, ils se disent, bon, ben, allez, c'est parti.
Il y a des périodes plus ou moins propices, tu vois. T'as plus de souscriptions en fin de mois, avec la paye, qu'en milieu de mois, quoi.
Oh, ça, c'est pareil dans la vente sur Internet, tu constates. C'est impressionnant, ce retour. Vraiment, d'accord, ok. 30 000 euros, au final, récupérés. Et avec ces 30 000 euros, vous avez pour mission de réaliser quoi?
Donc,
un livre de base, 4 suppléments, c'est ça. Ouais. Un écran, des cartes, des dés.
Alors attends,
un poster.
Tu répètes. 5 livres. Il y a combien d'exemplaires à peu, vous savez à peu près. Hein, c'est pas non plus nécessaire de me donner des chiffres très précis, mais ça fait 5 livres, un poster.
250 souscripteurs.
Ouais, ça doit être 1250.
Vous savez exactement combien de chaque vous devez faire ou pas, ou là vu de pif comme ça.
Je crois que c'est ça, 250.
250
autour
bouquins.
Autour de 200, je dirais.
250 bouquins, combien de posters?
À peu près pareil, je crois.
Ouais, d'accord. Ah oui, parce
que les goodies, c'est à peu près pareil, ouais. Parce que...
Attendez, mais ça me fait marrer. C'est-à-dire qu'en fait, si on réfléchit bien.
Parce que lorsque tu veux.
Putain, c'est
une chose qu'on n'a pas dit.
Je commence à comprendre.
Tu avais un pacte avec des artefacts, donc tu les avais gratuitement. D'accord. Si tu avais commandé pour moins de 100 euros, les goodies, tu pouvais les acheter.
Oui.
C'est-à-dire que tu pouvais ajouter à ton panier, alors je sais plus à combien étaient les dés, par exemple. C'était
parce que seuls les dés t'intéressaient. Ou...
Voilà, parce que tu n'étais intéressé que par les dés, que par l'écran, tu pouvais l'acheter à l'unité, si tu veux. Si tu avais dépensé moins de 100 euros à la base.
Les dés, c'est ce qui s'est le plus vendu
en fait,
à l'unité.
Sans rire.
D'accord, ok. Donc en fait, vous aviez une possibilité de combiner en fait toutes les propositions. D'accord. Mais ce qu'on voit en fait, c'est qu'au final, si je prends vos chiffres et si j'essaye de les analyser, je m'aperçois finalement que les gens n'ont acheté que du collector. Alors ça a quel sens de si tout le monde est collector, plus personne ne l'est. C'est un petit peu comme dans les indestructibles.
La gamme en normal.
La gamme en normal, d'accord. Okay.
Et quelques collectors, mais la plupart, c'est la gamme en normal.
La gamme en normal. Mais par contre, la base, c'est vraiment la gamme en normal, quoi. Finalement, le PDF, c'est pas très bien vendu.
Ah, le PDF, oui, on nous a pas mal reproché de les vendre. Parce qu'en général, les gens les offrent avec le bouquin. Sauf que nous, on veut pouvoir vendre par la suite sur notre boutique les PDF seuls, à l'unité, que les gens puissent acheter juste un PDF. Et ça, tu...
Ça plaît pas, ça. De vendre des PDF sur Internet, c'est chaud, hein.
Oui, mais...
Ça, c'est chaud.
Mais au-delà de ça, t'as pas le droit, normalement, de vendre... Enfin, d'offrir un PDF que tu vas vendre par la suite. T'as une histoire que tu peux pas faire plus de 5% de remise, un truc comme ça.
Ah oui, d'accord.
Sur le prix d'un livre.
Exact. Oui, tout à fait. Il y a le prix fixe du livre... Ouais. Qui te contraint. Ah oui, d'accord. Ce qui considère la juridiction française considère que le PDF est un livre. Ça, c'est intéressant.
Ouais, ça a pas mal évolué là-dessus. Ouais.
Ah, d'accord, ok.
On s'est renseigné justement. Et après, il se trouve que.
Donc, si t'as déjà donné ton PDF, tu peux plus le vendre après.
Voilà. Et ou tu peux plus le vendre sur d'autres plateformes, par exemple, aussi. Parce que après ça fait concurrence déloyale, parce que toi tu l'as offert, tu le proposes à la vente sur d'autres trucs. Enfin, bon,
d'accord. C'est le bordel. Oui, parce que les PDF que tu vends, évidemment, ils ont un numéro ISBN dans la mesure où les exemplaires physiques sont déposés. Ah, mais oui, mais bien sûr. Ah putain, mais carrément, je comprends. Ah oui, donc c'est complexe à ouais. gérer ça.
Et du coup, nous, on a dit, on prend pas de risque avec ça, on vend les PDF à leur prix auquel on veut les vendre à l'unité. Donc il y a des gens qui ont acheté des PDF, genre le pack de à 100 € de base, si tu voulais les, toutes les options, les cadeaux bonus,
ouais.
t'avais le, pour 100 € t'avais le livre de base donc à 50 € plus toute la gamme de PDF qui fait à peu près 50 €, les cinq livres en PDF.
Ok. Alors juste pour que les gens comprennent bien cette conversation, parce que je ne sais pas si on est très clair, un bouquin en fait dispose d'un numéro ISBN qui est son numéro d'identification nationale, et en France la législation impose que le livre ait un prix fixe pour éviter que les gens, que les bibliothécaires, en fait les libraires, que n'importe quel service prennent des marges indues sur des bouquins pour diverses raisons.
Une histoire de concurrence.
Ouais, c'est une histoire aussi d'exception culturelle française. Bon. C'est très compliqué, mais en gros, donc du coup, ce qui explique que si par exemple ils avaient diffusé, juste pour expliquer, leur PDF gratuitement, on considérait à ce moment-là, au moment du dépôt de l'ouvrage, que le prix de l'œuvre était 0 €, et du coup, ça vous obligeait ensuite à ne plus vendre l'ouvrage. À plus de 5% de 0 €. Alors là, du coup, ça devient absurde. Voilà.
C'est un truc dans le style. Après, ouais. on nous a un peu contredit là-dessus sur d'autres forums. De ce que j'ai compris, après, moi, je suis pas un expert juridique, etc. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris de risque, nous. C'est que tu pourrais le faire sur ton site tant qu'il y a que toi qui le vends. Tu pourrais faire du rabais de malade si s'il y a que toi qui le vends. À partir du moment où tu vas le vendre sur un autre site, je sais pas, on imagine. Le PDF de Shan, je vais le mettre sur Amazon, enfin, ouais. j'en sais rien.
Oui, tout à fait, ou dans un magasin. Ouais. Vous êtes distribué, ça y est, vous êtes distribué par Yellow, on vous propose différentes boutiques en ligne qui proposent des ventes de PDF, vous êtes foutu. Ouais. Enfin, ça y est, vous pouvez plus vendre, vous pouvez plus faire les réductions que vous souhaitez sur vos PDF, parce que du coup, vous êtes soumis à cette contrainte du prix fixe sur vos ouvrages. Ouais. Ah non, mais c'est très clair. Hein. Ok. Donc au final, 30 000 € pour Shan. Là maintenant c'est fini, les bouquins sont partis à l'impression. Vous avez eu
le livre de base est parti à l'impression.
Vous avez eu assez avec les 30 000 €. Enfin, vous pensez que vous êtes large, vous êtes bien, il y a aucun souci.
En fait, ça permet même d'en faire un peu plus et de
espérer en vendre en boutique après.
Et voilà, après on a passé un accord avec Yellow qui va le distribuer en boutique dans son réseau de boutiques. Voilà, il sera présent.
Donc si le bouche à oreille est bon, si les backers sont contents, les souscripteurs sont contents, ils font jouer à Shan. Vous avez quand même 200 exemplaires qui se baladent, voilà. Potentiellement 250 tables avec des MJ. S'ils sont contents, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un joueur parmi ces tables qui devienne à son tour. Et là, du coup, il pourra plus souscrire puisque les souscriptions sont fermées. Mais par contre, il pourra toujours trouver son Shan en bibliothèque, en boutique. Ouais. Et donc l'acquérir
site,
normalement. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, vous gagnez sur tous les tableaux. C'est-à-dire que vous faites des précommandes. Un système de précommande finalement au début où vous êtes sûr de trouver preneur, et ça vous permet en plus d'avoir de l'argent pour en vendre comme un jeu de rôle normal.
Enfin, sûr, c'était. Quand on a lancé la souscription, c'était un peu la flippette. Si tu veux, après 5 ans à bosser dessus, on s'est dit merde, si ça intéresse 3 personnes.
Ouais, excuse-moi, Vincent, c'est vrai.
C'était plutôt le soulagement.
Oui, d'accord.
Victoire.
C'est vrai.
Ça intéresse encore d'autres gens. C'est...
Donc au final, il y a ce stress de la souscription. Honnêtement, Vincent, allez, vous auriez pas atteint la souscription et tout. Vous auriez pas tenté quand même de le faire autrement.
Autrement, oui, c'est sûr. On aurait cherché un autre biais pour le faire.
Ça. Oui, ce serait pas été l'idéal, mais
ça aurait été plus compliqué. Mais peut-être juste en format numérique où on aurait imprimé beaucoup moins de livres de base et pas les suppléments. Enfin, on aurait.
Et puis comme tu le dis, Vincent, ça fait un petit coup au moral, quoi. De se vautrer, quoi.
Bah, c'est-à-dire, une fois que tout est fait, si tu veux, bon, ça n'aurait pas fonctionné, on aurait trouvé une autre solution, quoi. Mais bon, on aurait fait une croix sur nos rêves de livres, de beaux livres, d'objets, tu vois. C'est...
Est-ce que vous avez des remarques sur cette expérience? Des choses qui vous ont particulièrement marqué, des moments forts dont vous avez envie de parler? Qu'est-ce que ça fait d'être proposeur, je sais pas comment on dit, comment on appelle ça, les gens qui proposent des choses comme ça sur des plateformes il y a les backers, il y a les souscripteurs, mais ceux qui proposent, je ne sais pas comment ça s'appelle. Qu'est-ce que ça fait d'être une personne qui se lance? Alors, tu parlais du stress tout de suite, Vincent, de dire, putain, est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on ne va pas le faire?
Alors, il y avait le stress, il y avait le fait que je ne souscris pas à titre personnel, et j'en parle beaucoup aussi autour de moi avec mes amis, donc du coup... voilà.
T'avais pas fait de bonne pub pour la souscription à la base.
Non, j'avais pas à la base. C'est vrai que je sais pas un format qui me tente plus que ça, enfin qui m'inspire plus que ça.
On aura peut-être l'occasion d'en reparler quand
tu vas voir tes amis en disant bon bah voilà c'est en souscription, c'est ah bon. Tiens, c'est...
Tiens, mais tu nous avais pas dit que c'était de la merde.
Alors, tu dis oui, mais bon, on a travaillé tout ça. Enfin bon, ça, je sais pas, ça signifie pas que les autres ne travaillent pas, mais c'est enfin t'essaies de. Mais bon voilà, c'est.
D'accord.
Donc, non mais c'est vrai qu'à la base moi je sais qu'à titre personnel s'il y avait pu y avoir une autre solution qui garantisse voilà cette gamme j'aurais préféré une autre solution voilà pour rester un peu cohérent avec ce que je pensais quoi mais bon
d'accord okay, pas, quoi, ouais. Et la souscription finalement t'en es très content
bah là en l'occurrence ça a bien fonctionné mais attends on est parti pour une gamme on verra au bout de quand tout sortira quoi. Puisque derrière, c'est aussi un engagement qu'on
ça,
a pris, si
ça,
tu
ça,
veux.
Ça, c'est bizarre aussi de partir sur t'as 30 000 euros et puis t'as un engagement sur une gamme. C'est-à-dire que t'es payé, ton salaire tombe avant même que t'aies fait le travail. Ça, c'est quelque chose que je trouve bizarre.
Alors, c'est pas un salaire. Oui, parce qu'on n'est pas payé un salaire. Pour Shane. On fait ça vraiment à titre bénévole. Enfin, tout le boulot qu'on a fait jusque-là.
Attendez, vous hallucinez complètement.
Vous ne vous
c'est
payez
du jeu de rôle.
C'est ça, c'est jeu de rôle.
Non, mais attends,
quoi ? Non mais vous êtes dingue. C'est-à-dire que dans les
on
vous
est êtes passionné.
C'est Sean.
Oh là 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 là. Ah non, c'est une erreur, non ? Vous croyez pas ?
Ah non non non.
À aucun moment vous pensez.
Les sous, ça a toujours été pour imprimer les bouquins, fabriquer les dés.
Ah, c'est très idéaliste et tout, mais quand même, enfin.
Ah non,
il faut
mais
vous payer
clair
quand même.
Dès le début. En fait, on va
ah, être payé. C'était clair dès le début que vos salaires n'étaient pas contenus dans.
On va être payé en droit d'auteur.
D'accord. C'est-à-dire sur les bouquins qui seront vendus après en boutique et c'est tout.
Surtout les bouquins qui vont être vendus, même ceux de la souscription.
Ah bah oui, donc quand même, vous touchez des droits d'auteur quand même, vous serez payé.
Pour l'instant non.
Ah oui, pour l'instant non.
Pour l'instant non, il faut savoir que comme on tenait d'accord. aussi à ce que le livre soit en boutique, donc on est passé par Yellow, qui prend. Beaucoup.
D'accord.
Enfin voilà, je veux dire.
C'est un distributeur qui est très gourmand.
Enfin, c'est un distributeur. C'est un distributeur. Ça revient aussi sur la marge et donc sur les droits d'auteur possibles. Hein. C'est.
Bon, vous
non,
avez
non,
des chiffres.
Les droits d'auteur, c'est fixe. C'est 15%, je crois, en tout.
D'accord. Donc, si vous êtes 5, vous partagez 15% de la base.
Ouais.
15% de 50, ça fait quoi? Je sais pas, vous avez calculé.
Ça fait 7,50.
Donc, tu vois, d'accord. Hein. Vous êtes combien d'auteurs ? Trois ?
Trois.
Igor, Julien et Vincent. Maillard, tu parlais de Maillard tout à l'heure.
Il a écrit quelques parties de l'Atlas et surtout le scénario de l'écran, qui sera avec d'accord. l'écran. Donc là, on lui paye le
travail. Le scénario, il est contractuel, si j'ose dire, dans le truc. Il n'est pas vraiment auteur, il est plutôt contractuel.
Il paye le scénario.
D'accord, ok. Plutôt payé comme un pigiste.
Au départ, il l'a fait de manière bénévole. On peut le payer uniquement parce que ça a marché.
Parce que ça a marché, d'accord. Voilà. Okay. Mais à la base, lui...
Il comptait pas...
Et donc, Yellow, tu disais... alors, tous les distributeurs, en fait, hein, ils prennent alors, quoi en... sur...
Je sais pas exactement, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que la souscription, c'est aussi de la vente directe. Si t'as pas de marge boutique, tu payes pas de distributeur. C'est directement de l'éditeur au client, quoi, si tu veux. La marge qui est dégagée est plus importante aussi.
C'est ce que je disais quand je disais que ça vous permet d'être indépendant aussi.
Oui, mais nous aussi, on avait cette volonté de voir le livre distribué dans les boutiques spécialisées. On aurait pu se dire, ok, voilà, on a une souscription, on en a vendu 250, c'est bien.
On s'arrête là.
Voilà, on en tire peut-être 500.
Et le reste, on le garde
uniquement sur notre site internet. Mais voilà, c'était. Il y avait aussi une volonté de faire renaître le jeu. Mais,
Vous aviez une offre de souscription d'ailleurs pour les boutiques dédiées. Ça a marché, ça ?
Non.
Il y a une boutique hein, qui a.
Philibert, pour citer un nom, et Troll de jeu. Mais surtout Philibert qui a vachement participé. Mais c'est tout deux boutiques sur 200 participants. Quoi.
Enfin moi, pour avoir discuté avec des gens en boutique, il y a aussi une question de principe. Il y en a beaucoup qui ne souscrivent pas parce que c'est pas dans leur intérêt que la souscription se développe, si tu veux. Vu que c'est de la vente directe de l'éditeur
parce
au consommateur.
Qu'ils ont des prix intéressants quand même.
D'accord.
Plus parce qu'ils considèrent que c'est pas à eux de financer des gammes justement et eux ils sont vite
intéressant. On voit qu'il y a aussi des conflits de pouvoir sur les marges et tout, qu'il y a des enjeux. Mais Yellow, juste rapidement, j'ai pas réussi à vous soutirer l'info à votre.
Moi je sais pas les pourcentages, mais c'est juste qu'ils étaient gourmands à partir du moment où il finançait la gamme, ou le bouquin de base. À partir du moment où on a eu les sous, nous, pour le
juste
pour
la distribution,
et qu'il s'occupe de la partie distribution, là...
Moi, par exemple, je veux faire distribuer Sens, par exemple, en boutique. Je vais chez Yellow, je leur dis, bah, salut, je suis indépendant, je veux faire distribution. Comment ça se passe concrètement?
Je sais pas.
Moi, je sais qu'Yellow, pour avoir discuté avec certaines personnes, ils distribuent pas tout et n'importe quoi.
Ouais,
ils apposent leur logo, ils apposent leur logo. Non, mais je veux dire, ils apposent leur logo sur, ils ont une image aussi qui véhicule. Yellow, ils distribuent les ondes d'Esteren et Shan. Et je sais que pour Shan, il y a eu une commission au sein de Yellow, quoi. Je veux dire, ils se sont réunis pour savoir est-ce qu'on distribue ce jeu.
D'accord.
C'est pas parce qu'on allait les voir en disant on a un jeu, voilà.
Ils ont une image de distributeur et de marque à défendre aussi. Oui.
Voilà, c'est ça. Donc,
ils ont une logique de produit.
Donc voilà, au-delà de l'aspect financier, ils regardent aussi ce qu'ils vont faire. Après, moi, je sais pas exactement combien.
D'accord.
Mais je sais juste que voilà, t'as une marge, si tu veux, qui fait que tu perds forcément par rapport à la vente directe.
J'aurais essayé, hein, chers auditeurs, de vous faire soutirer des informations là-dessus, mais je n'ai pas réussi. Mais j'aurais essayé. Donc, je vous interrogeais sur les moments forts, les moments de... Alors, Julien, quels sont les moments forts de la...
Moi, j'étais trippé du début à la fin.
Ouais.
D'un point de vue technique, déjà, c'est moi qui ai fait la plateforme, donc il fallait que ça tourne et que ça marche. Et que, voilà. C'était quand même un challenge pour moi.
Donc toi, chez Ori Games, tu es vraiment l'aspect monsieur technique, informatique, en fait, toi, qui fait les sites, monsieur web et tout.
Et après, c'est de l'excitation de voir est-ce que ça va plaire aux gens.
Le compteur qui monte.
Voilà. Refresh. Voilà. Est-ce que ça va monter aujourd'hui? Voir si j'ai reçu des petits mails de commande.
Ouais.
Non, c'est super excitant du début à la fin, surtout au début, surtout à la fin.
Ouais, parce que
très
du coup,
flippant au milieu.
Ah, parce que tu vois le froid. Ouais. Est-ce que ça va décoller à la fin, en fait, c'est surtout.
Est-ce que ça va atteindre les paliers, etc. Mais après, dès qu'on a atteint le premier palier, c'est un soulagement. Parce que c'est fait, au moins on a le bouquin de base, on est content, on aura notre objet. Moi, la couverture cartonnée, c'était pas un souci, donc j'ai pas eu trop de stress là-dessus.
Ouais, tu t'en foutais. Personnellement, si déjà le bouquin sortait, t'étais content.
La concrétisation du projet.
L'objet dans les mains. En couleur, tout beau. Il y a aussi beaucoup de côté reconnaissance, quoi. J'ai beaucoup de proches qui ont participé.
Ça permet aussi de montrer de révéler ton aspect rôliste à des proches, à des gens qui t'entourent de les solliciter pour t'aider à faire un projet auquel a priori n'ont aucune attache. Ta grand-mère, ton grand-père, tes parents.
Ma grand-mère qui m'a envoyé un chèque par exemple parce qu'elle comprenait rien comment on pouvait participer. Bah tiens, je te envoie des sous, tu participes pour moi, j'ai rien compris, mais tu me fais la manip.
À ton aventure rôlistique. Et du coup, ça permet d'expliquer aussi à son entourage qu'on fait du jeu de rôle, expliquer ce que c'est jeu de rôle.
Au final, leur envoyer un bouquin, voilà, ça ressemble à ça.
Tu vas lui envoyer le livre?
C'est un collector.
Bien joué.
Il faut quand même.
Je sais pas combien de fois on a dit merci à tout le monde, mais c'est vraiment une super expérience de voir ce côté participatif. Ouais, justement, j'adore ce système pour ça, quoi. C'est le côté, justement, on n'a pas besoin des banques, on n'a pas besoin d'investisseurs, c'est nous les investisseurs, et puis...
Côté indépendant. En tant que souscripteur de Shan, toi, t'as suivi, Marc, la progression
l'aventure,
du truc.
Ouais, parce qu'en plus, le site qu'avait fait Julien, comme d'habitude, avec ce qu'il fait en site, c'est assez sympa. Donc là, il y avait vraiment une... dynamique, on pouvait vraiment suivre le truc et Sandra, ma compagne aussi, suivait le truc assez fébrilement. On était chacun indépendamment à s'informer sur où on était, le pourcentage sur le premier palier. Après, c'est vrai qu'après le premier palier, c'était déjà plus cool. Mais ouais, on a suivi ça avec pas mal d'intensité.
Ils ont passé le premier palier.
C'était un très beau moment. Ouais.
Et du coup, les réseaux sociaux. Alors, justement, ça, c'est un truc aussi sur lequel je voulais. Comment est-ce qu'on fait quand on est comme vous, des gens qui proposent des projets pour faire parler, pour amener des gens à justement.
Comment on fait le réseau, hein.
On utilise le réseau, ouais. Donc c'est quoi? C'est Facebook, Twitter, les magazines, les e-magazines.
Voilà, c'est ça, tous les contacts. C'est 2 mois de communication intense. Ouais,
c'est très important. Et même après,
et comment on communique sur un jeu qui n'est pas encore fait? Enfin, là, en l'occurrence, vous aviez commencé, mais.
Ouais, mais alors Shan, c'était un peu plus simple, si tu veux. Shan, c'était déjà un jeu avant, si tu veux.
On va en parler de ça.
Je pense que quand, je sais pas, à mon avis, quand tu fais une souscription sur un projet qui part de rien, c'est un peu plus compliqué. De ramer,
alors ça, c'est vraiment une constante. Hein. Alors ça, j'ai lu assez peu d'articles sur tout ce qui est souscription et tout ça, mais tout ce que j'ai lu, c'est souvent en rapport avec le jeu vidéo. Moi, ce que j'ai lu autour de ça, pas tant au niveau du jeu de rôle, et il disait que la nostalgie, les remakes, les retours de créateurs de jeux dont on n'entendait plus parler, qui reviennent sur le devant de la scène, c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui marche. En gros, ce qu'ils expliquaient dans l'article que j'ai lu, c'est que, et aussi dans pas mal de podcasts de Gameblog que j'ai écouté où ils parlaient de ça, c'est qu'en gros, si t'avais pas un nom connu, que ce soit le jeu ou le créateur du jeu, on a beaucoup parlé de Tim Schafer, hein, le maître du point and click qui est revenu comme ça par le financement participatif avec un nouveau projet qui a fait des tas et des tas de backers, bah voilà, c'est parce qu'il avait le nom Tim Schafer et qu'il était associé à tous ces point and click qu'on fait la gloire de l'Amiga, et voilà, enfin c'est sûr que ça joue à fond, quoi.
Dans le jeu de rôle, t'as quand même quelque chose de particulier, c'est que c'est un modèle qui se développe énormément et qui devient presque une norme, en fait, le financement participatif.
J'ai l'impression.
Là où c'est plus minoritaire, dans le cinéma ou la musique ou le jeu vidéo, aujourd'hui, voir un jeu sortir avec une souscription, je dirais que c'est pas tout le temps. Mais c'est de plus en plus fréquent. On est de plus en plus habitué. Hein.
Je pense aussi parce que les rôlistes n'ont plus de magazines, ils n'ont plus de mass media, ils n'ont plus de. Pour se renseigner, il n'y a qu'Internet. Et donc, du coup, ils ont cette familiarité avec le net qui fait que, ils peuvent facilement. Parce que la souscription, c'est ouvert. Regarde, la grand-mère de Julien, elle n'aurait pas connu Julien, elle n'aurait pas envoyé son petit chèque pour souscrire à Chan.
Ouais, non, mais là, c'est parce que c'est ton proche, en fait. Mais je veux
non, dire, non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que si tu n'es pas compétent sur Internet, déjà, la souscription, tu passes à côté.
Ah, hein. Oui, bien ça, sûr, c'est clair. Sur Internet. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mode d'achat qui devient de plus en plus fréquent dans le jeu de rôle. C'est-à-dire, toi, des rôlistes qui vont participer, enfin, qui vont faire du financement participatif pour acheter des jeux, il y en a vraiment de plus en plus. Et quand tu leur poses la question, est-ce que tu ferais la même chose pour un film? Ben non, pas pour un film.
Ouais, d'accord, ok.
Mais pour un jeu, c'est de plus en plus, c'est vu comme une précommande.
Ouais, d'accord, ok. Or, ce n'est pas le cas. On aura l'occasion d'y revenir peut-être. Ça peut, mais pas toujours.
Et pour Shan, justement, il y avait sur le site un truc qui était assez, je pense, qui a pu aider ou convaincre aussi les gens, c'est qu'il y avait des pourcentages sur l'état d'avancement des différents bouquins de la gamme. Sur 3 aspects à chaque fois, rédaction, maquettage et
illustration.
Et illustration, ouais.
Vous donnez des news, en fait. Bon, tiens, on en est là.
Et il y avait déjà du contenu, il y avait déjà le kit d'initiation qui était sorti, il y avait le générateur de personnages qui était en ligne, il y avait des réseaux qui étaient déjà sortis, il me semble. Il y avait déjà du contenu qui avait alimenté le site.
D'accord. Hein. Donc les gens savaient qu'il y avait déjà un jeu.
Et c'est super important de montrer qu'il y a quelqu'un derrière, quoi. De ne pas faire d'absentéisme dans la communication, en particulier quand le projet se termine, parce que le truc a été souscrit. Bah nous, on est constamment sur les forums à répondre aux questions sur le forum du site Chan, quoi. Mmh. Parce que la communauté commence à se développer, il y a plein de questions qui arrivent parce qu'ils ont déjà tous les PDF du bouquin de base.
L'absentéisme sera un très mauvais signal envoyé.
Quand t'as souscrit et que c'est silence radio de l'autre côté, t'as plus de nouvelles du mec qui fait le bouquin. C'est pas très bon en général, quoi. Même s'il y a des bonnes volontés derrière et que.
L'idée aussi, c'est bien, on en a vendu 200, quoi, mais c'est vrai que si on pouvait avoir 200 MJ, ce serait beaucoup mieux.
250,
mais ouais. Je veux dire, faire vivre la communauté, c'est aussi faire vivre le jeu au-delà du livre, si tu veux, du bel objet.
Vous vous rendez compte, 250 dans 3 mois, c'est ça? C'est énorme. Hein. C'est bien. Ouais, c'est très très bien. Faut savoir, un best-seller dans le milieu du jeu de rôle, 500, entre 300 et 500 en un an.
Ouais.
Donc ça vous donne une idée quand même. En moyenne, ça donne ça. T'es pas d'accord, Vincent, sur ce chiffre?
Ça dépend des jeux.
Ouais. Moi, la plupart des éditeurs que j'ai pu rencontrer ici, et je commence à en avoir rencontré quand même pas mal, et pas mal d'expériences différentes quand même. Et qui me quand je débranche les micros et que le pipeau, que les chiffres réels sortent, enfin, je peux te dire que c'est on est plus dans ces chiffres-là. Et d'ailleurs, regarde, tout concorde, hein. Regarde, t'as vendu 250 chiens de renaissance, et moi avec 100, je suis à 300, et en combien? 5 ans, c'est ça? Les chiffres, hélas, tu vois, ça commence à stagner. On est gentiment autour du 3, entre 300 et 500, hein, et j'entends rarement des gens débarquer en disant, moi j'ai la preuve que j'ai vendu. Regarde, il y a pas si longtemps, Lionel Jeanrat faisait un rapport sur Romance Érotique, qui a bien été distribué, un jeu de cul en plus, donc ça marche bien. Enfin, tu vois, a priori, le sexe, c'est un sujet toujours assez vendeur. Il en a vendu 450. On se rapproche encore des mêmes chiffres. On est toujours autour de ces chiffres-là. Hein. C'est la moyenne est là.
Il y a 500 rôlistes en France.
Non, mais à voir pour les best-sellers. Enfin, tu vois les grosses locaux, l'appel de Cthulhu, Warhammer, ce que ça peut donner. Ouais. Vraiment les gros titres.
Ouais. Où là vraiment les joueurs achètent aussi pas que
les joueurs achètent la marque, ouais. Pratiquement. Ouais. Mais bon, ceci est un autre débat. Quoi.
Ouais, ceci est un autre débat. Et puis faut voir aussi que les jeux qui sont joués aussi. Faut parler un jour de ça parce que c'est bien de vendre 1000 exemplaires aux boutiques. Mais qu'est-ce qui te dit qu'ensuite, dans les boutiques, les exemplaires, ils pourrissent pas dans des étagères? Ça, c'est une autre question. C'est pareil.
C'est ce que je te disais, comme c'est bien de vendre 250, mais si après, tu fais pas vivre la communauté,
est-ce que
ce sera joué? Ouais.
Alors, on a parlé de vos moments forts dans cette expérience. J'aimerais rapidement aussi qu'on fasse un petit tour de table pour voir quels sont les avantages que vous sentez pour vous, hein, vraiment dans votre expérience toujours, on reste centré sur vous, les avantages que vous avez trouvés à faire une souscription comme ça, et inversement, si possible, le plus honnêtement possible, nous dire aussi des défauts, des trucs où vous dites, ah là ça a fait chier de faire une souscription, si c'est possible. J'ai l'impression que vous n'y voyez que des avantages.
Ah, moi j'ai à peu près déjà dit les avantages, je pense, le fait de justement d'être indépendant et de...
Il n'y a pas okay, un petit côté proximité aussi avec son lectorat ça rentre dans l'indépendance, selon toi? D'accord, ok, très bien.
Enfin, de toute façon, nous, là, tout est parti de la communauté. Donc, pour nous, on sera content si la communauté vit et que justement le jeu est joué, qu'on nous pose plein de questions, qu'on y répond, qu'on discute de Shahan sur le forum. Ouais.
Parce que vous, en fait, c'est ça que vous aimez, parler de passion. Très bien. Donc ça, c'est vraiment le côté positif pour toi, c'est ce côté où on est obligé d'échanger, obligé d'être proche des gens, obligé de...
Et le côté négatif, c'est éventuellement on est obligé de se mettre en danger, du coup, parce que c'est pas un tiers qui va investir pour soi, qui va prendre les risques, c'est toi qui va te mettre face...
Beaucoup de boulot peut-être aussi, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel.
Ça, c'est pas un souci. Enfin toi, à partir du moment où tu fais pour la
passion.
Voilà, c'est ça.
À partir du moment où t'es passionné, ça devient moins un souci, mais voilà.
Tu fais pour toi, de toute façon. Donc, voilà. À la base, tout ce projet-là, je l'ai fait d'abord parce que j'adorais la communauté, ensuite parce que je voulais un livre et je voulais aller au bout de ce projet-là, et après, plus tard, parce que j'ai rencontré Igor, qui est une personne fabuleuse, et puis que voilà, les échanges avec lui, c'est juste magnifique. Quoi.
Vincent, même question.
Les avantages, ça a permis de financer la gamme, et pas que le livre de base. Les inconvénients, je sais pas qui a aidé le projet ou qui a précommandé le livre de base, en fait. Je me demande à quel niveau se trouve l'investissement quant au projet en général. Tu vas me dire, au niveau du résultat, c'est la même chose, on s'en fiche. Mais c'est-à-dire au moment où les gens ont cliqué pour payer. Est-ce qu'ils ont payé pour se dire « j'aide à financer la gamme de Shahan » ou « je précommande mon livre de base et mes PDF, quoi, potentiellement ?»
Qui s'investit au final? C'est ça que tu veux dire?
C'est à quel niveau? Est-ce que j'aide le projet ou est-ce que c'est du consumérisme?
Un achat,
tu vois, c'est,
ça, on ne le saura jamais.
On ne le saura jamais, mais voilà, c'est une question comme ça.
Au vu du nombre de packs d'érudits négociants, donc tous les gros packs... avec toute la gamme qui ont été achetées, c'est quand même plutôt des gens qui soutenaient la gamme. Parce que sinon, ils auraient acheté que le livre de base et ils auraient attendu que les suppléments sortent pour les prendre soit en option, soit après. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, on a eu pas mal de retours, de gens qui disaient Moi, ça m'intéresse pas de soutenir le projet. Par contre, je l'achèterai peut-être en boutique parce que c'est un objet qui m'intéresse, justement, un jeu qui m'intéresse.
Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Moi, je ne l'ai découvert qu'après la souscription. J'avais vu que la souscription était lancée. J'avais fait un podcast dessus quand même. Ouais. Vous avez mis un petit projecteur. Vrai. Mais on a, parce que moi j'adore Shan, hein, personnellement, les auditeurs le savent, j'en parle de temps en temps aussi. C'est quand même une des inspirations de Sens aussi. Ce jeu, à la base, la première édition. Donc, du coup, j'ai vraiment un affect très particulier avec ce jeu. Donc, j'avais voulu, comme ça, vous faire un podcast aussi pour éclairer la renaissance du jeu. J'avais jamais rencontré Igor, effectivement. C'est vraiment une personne très particulière, assez exceptionnelle, hein, c'est vrai. Et puis une grosse expérience, un gros vécu, et le fait qu'il le mette dans son jeu comme ça, je me souviens, je m'étais dit, ouais, ça c'est vraiment finalement un jeu d'auteur, quoi. En fait, Shan, c'était un jeu d'auteur, et c'est peut-être aussi pour ça que ça m'avait plu.
C'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionne. Enfin, Igor, c'est quand même quelqu'un qui est très fédérateur.
Ouais, moi je pense.
Et puis, vraiment très fédérateur. Bourré d'énergie.
Vous voyez
comme c'était quelqu'un qui s'était, je trouve, vraiment éloigné du milieu du jeu de rôle. Ah oui, même quand il bossait pour Play Factory, il était vraiment beaucoup plus discret. Et puis ça lui a permis de revenir vraiment sur le devant de la scène. Toi, c'est ce qu'il nous disait. Il pensait que Shan, ça n'intéressait plus personne. Je pense qu'il a été assez content de voir que ça intéressait encore du monde, quoi.
Enfin, des aventures assez sympas aussi. Son fils a écrit des parties de l'Atlas, par exemple. Alors que son fils, il est né quand il y a un des suppléments de la première édition qui est dédié à son fils parce qu'il naissait en même temps que le supplément sortait, quoi.
Ouais. Shan grandit.
La boucle.
Ah, c'est intéressant. Putain, ça doit être une expérience qui laisse à réfléchir quand ton fils commence à travailler. C'est intéressant. En tout cas, c'est sûr que clairement, je trouve que la souscription et tous ces phénomène de financement participatif dépendent quand même vachement de la team, dépendent de l'affection qu'on a pour les gens qui travaillent dans cette team et pour l'affection qu'on a pour ces projets. Et c'est pour ça que je pense qu'un nom inconnu, un projet inconnu, le pitch peut être très sexy, les illustrations très sexy, c'est pas sûr que ça fonctionne. Alors que si on a des noms qu'on connaît, des gens en qui on a confiance, des univers dans lesquels... Tu vois, moi, Shan, j'en aurais jamais parlé si j'avais pas eu un affect avec la première édition. Je suis l'exemple parfait en tant que média, je suis l'exemple parfait de ce que j'avance. C'est la nostalgie.
Je suis pas sûr. Il y a quelques de manière générale, ouais. Ouais. Tu vois, si on prend l'exemple, je vais balancer. Si on prend par exemple l'exemple des ludopathes, on peut penser ce qu'on veut, hein, des jeux qui sortent. Si tu veux, moi je trouve que ce sont de très mauvais communicants. C'est-à-dire qu'une fois que la souscription est finie, je trouve qu'il y a un silence radio entre le moment où la souscription finit et le moment où le bouquin sort, si tu veux.
Non, mais tu sais pourquoi il y a un silence radio.
Attends, les ludopathes, ils n'ont pas sorti un livre, si tu veux. Ils font des souscriptions régulières, et puis les gens continuent à souscrire, si tu veux. Et pourtant, il n'y a pas de communication, il ne fait pas vivre une communauté derrière. Donc du coup, je veux dire, il n'y a pas de sympathie particulière vu qu'il ne fait pas vivre de communauté. Les gens souscrivent parce que là, ils trouvent qu'il sort des beaux jeux, voilà, c'est très chouette. Enfin voilà, mais il n'y a pas de sympathie possible vu que t'as pas de communication.
Je ne sais pas. Moi, les ludopathes, la seule expérience qu'on en a, c'est une souscription de Thomas, hein, qui avait fait une souscription pour les ludopathes et qui a jamais reçu quoi que ce soit, que des insultes et des problèmes. Donc voilà. Donc nous, la souscription ludopathe, de toute façon, c'est fermé. Ici à la cellule, il n'y a jamais personne qui donnera une thune au ludopathe.
Mais d'accord, mais bon, d'une manière générale, tu vois bien que quand il lance des souscriptions, il arrive à boucler ses projets, quoi, malgré tout.
Oui, non, mais tout à fait.
C'est pour ça que la sympathie pour l'équipe derrière, je sais pas.
Il y a des gens qui aiment bien, hein, les ludopathes, ils sont souvent sur les conventions, ils sont humainement très adorables, enfin voilà.
Mais... Oui, c'est vrai, sauf que je trouve que le financement participatif, humainement, il est très sur Internet quand même.
Pop. Et les rôlistes, dans le milieu du jeu de rôle, je vais te dire un truc, tout le monde se connaît. Je suis sûr que les gens qui vont au ludopathe, le petit logo ludopathe, ils le connaissent parce qu'ils l'ont croisé sur des conventions, dans les lots, dans les machins. Sur toutes les affiches où j'ai été convention, il y avait toujours ce petit fou qui se baladait avec son bonnet rouge. Hein. Je l'ai vu à chaque fois. Donc, t'inquiète, enfin, ça joue. Hein. Tu dis l'affect Internet, tout ça, mais il y a aussi le logo. C'est-à-dire que les ludopathes, c'est un logo qui est connu maintenant.
Oui, c'est un logo qui est connu. Un logo il a des jeux pub. Qui. Non, mais c'est un logo c'est ce qui est connu. Il a des jeux. Il a des jeux qui qualitativement parlent pour lui aussi, parce qu'il a sorti des produits, voilà, qui sont très qualitatifs. Mais
c'est bien, tu dis des produits, c'est très bien.
Des jeux.
Tu dis bon, des choses.
Il a sorti des jeux, des livres. Des objets.
Des objets. Des produits culturels.
Voilà. Mais voilà, qui en termes de qualité parle pour lui, si tu veux. Mais, tout à fait. Mais voilà.
Puis bon, voilà, c'est une bonne finition. C'est des professionnels.
Voilà. Et je pense que ça joue.
Oui, ça joue. Bien sûr que ça joue, évidemment. Donc, les inconvénients de ce modèle, on les a un petit peu vus à travers votre expérience. Maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez comme. Acteurs en général et backers, etc. Est-ce que vous pensez que donc du coup c'est un modèle d'avenir, que c'est probablement le modèle dont a besoin le jeu de rôle? Est-ce que vous pensez que ça va, que c'est un modèle qui manquait au jeu de rôle, quoi, et que ça va peut-être donner un souffle nouveau à notre passion? Alors moi j'ai tendance à penser, bon, encore une fois, je suis pas très compétent hein, sur ce sujet, donc faut prendre ça d'où ça vient. J'ai tendance à penser que ça va être plutôt l'inverse en fait, hein, que ça va nous faire aller vers la régression en termes de sujet, en termes de domaine, qu'on va se retourner vers des vieux trucs bien connus, que ça va favoriser les licences qui sont déjà connues, les éditeurs qui sont déjà connus, les auteurs qui sont déjà connus, et que rien de nouveau ne pourra vraiment émerger à travers ce système. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc ça, je me lance le troll comme ça. Ouais,
t'as quand même le contre-exemple de Dragon Dead, qui a été monté en souscription aussi, qui est un jeu médiéval fantastique, un peu dark de ce que j'ai compris, où l'univers est assez fouillé, qui sortait un peu de nulle part. Ça reste du médiéval.
Moi, je ne connais pas. Tu vois, ça sort tellement de nulle part. Mais que
il y en a d'autres. Broken World aussi n'était pas. Et même, encore une fois, chez Ludopathe, Antica, Shade, qui ont été aussi en souscription, ne sont pas non plus des.
Avec les Ludopathes.
Ouais, alors après, tu as un éditeur aussi qui te vend. C'est un peu quand même une sorte de label qualité, mais voilà, tu as quand même un éditeur derrière qui te vend ça. Mais tu vois, ce n'est pas forcément des anciens produits, quoi. Des rééditions.
Qui ramassent pas des sommes folles, mais qui ça leur permet d'exister quand même. Parce que par exemple, Dragon Dead, c'est une maison d'édition toute jeune qui se lance, qui grâce à ça va pouvoir faire son bouquin. Ouais, peut se lancer grâce à ça, quoi.
D'accord. Donc c'est des jeux qui n'auraient probablement. Vous pensez que les ludopathes ne les auraient pas édités sans la souscription?
Même d'autres boîtes, là, l'exemple de. De Dragon Dead, je pense que c'est comme si une société toute jeune pour
c'est-à-dire que maintenant, en fait,
je pense qu'il y a un avantage, en fait, qu'il faut pas négliger dans la souscription, enfin, dans le financement participatif. C'est que d'un côté, pour les éditeurs, tu te passes d'un emprunt à la banque, donc des intérêts que tu vas payer. Et de l'autre, t'as des acheteurs qui raffolent des goodies, le fétichisme de l'objet. Mais ça, c'est une réalité. Et du coup, les intérêts de l'un convergent avec les intérêts de l'autre. Donc, du coup, c'est pas forcément un mauvais modèle en soi.
Tu vois, moi je dis pas que c'est un mauvais modèle, hein, mais je pense que c'est pas un modèle d'avenir. C'est un modèle qui va vendre du présent, enfin qui va ne faire qu'entretenir les passions qui sont déjà présentes. D'ailleurs, tu le dis, tu vois, on retombe sur le fétichisme de l'objet, voilà. Ça va entretenir les rôlistes dans cette idée que tu vois ce que je veux dire. C'est ça.
Non, mais moi, je fais partie des gens qui sont sur le fétichisme de l'objet, si tu veux, j'aime
mais
bien.
Mais je te clash, mec, là, je suis en train de te chercher, voilà, là, je suis en train de te foutre la merde, là.
Écoute, alors.
Il n'y a pas de répondant, là, ce soir.
À titre personnel, pourquoi est-ce que je participe pas au financement participatif? Parce que moi, j'aime acheter mes jeux de rôle en boutique. Enfin, d'une manière générale, je n'aime pas acheter sur Internet. J'aime bien me déplacer dans des boutiques, rencontrer des vrais gens, parler avec des vrais gens. Et du coup, pour les jeux de rôle, aller dans une boutique, avoir le livre entre les mains, tourner les pages, enfin voilà, avoir un support
physique. Le bazar
physique.
Du bizarre, tout ça.
Non mais voilà, avoir un support physique. Si tu veux acheter sur Internet, ça ne me vend pas du rêve. Ça ne me vend rien du tout, d'ailleurs, c'est d'acheter sur Internet. voilà. Donc j'ai envie de pouvoir aller dans des boutiques, si tu veux, et de continuer à acheter mes jeux de rôle. Pour moi, le financement participatif, c'est la mort du jeu de rôle dans les boutiques. Et je vois ça comme ça. Pour un éditeur à long terme, je sais pas si, tu vois, quand t'as eu 250 participants, est-ce que t'as intérêt à produire plus de 250 livres? Je sais pas si t'en vends beaucoup plus. Mais finalement, au bout d'un moment, tu peux te retrouver otage du modèle. C'est-à-dire que l'éditeur qui va dire, voilà, moi je vais éditer, s'il y a 250 personnes qui souscrivent, j'en souscrirai 250. Si tu veux ton livre, tu souscris ou tu ne l'auras jamais. Et j'ai pas envie de me retrouver otage de ce modèle. C'est pour ça qu'à titre personnel, je ne souscris pas parce que j'ai pas envie de me retrouver dans cette dérive, justement.
D'accord.
Qui n'existe pas actuellement, mais que j'entrevois à l'avenir.
Quand on le pousse un peu, quand même, ça va.
Voilà.
Comment ça dire des dérives?
Bah, c'est pour moi une dérive possible que j'ai pas envie de voir arriver. Mais après, c'est pas, tu vois, du tout lié à la production, à ce qu'on peut proposer, à, voilà, au fait qu'on réédite toujours les mêmes vieux jeux ou qu'on entretienne les mêmes passions, quoi.
Ok, je te le dis autrement. Mais Julien, t'avais peut-être quelque chose à rajouter sur ce truc?
C'est sur une autre dérive, mais.
D'accord.
Continue là-dessus.
Vas-y. Non, sur une autre dérive, si tu veux, j'allais enchaîner sur une autre dérive, moi.
Enfin, c'est plus le risque qu'il y a derrière que le projet ne se fasse pas. Justement, que t'attends ton bouquin un an, deux ans, peut-être qu'il va finir par arriver, peut-être pas. Voilà.
On disait sur Ulule, par exemple, quand on donne.
Ouais.
Et c'est donner. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Une fois que vous avez donné à un auteur qui vous propose, qui vous soumet un projet, vous lui avez donné. Et il n'est pas question, il ne s'engage pas par ailleurs à vous.
C'est un acte de
sauf
confiance.
Sauf moralement, quoi, mais c'est un acte de confiance, ouais, ouais. Effectivement.
Et donc, c'est pour ça que la communication est très importante derrière, parce que il faut que celui qui souscrit sente que le projet continue à vivre, que les gens continuent à travailler dessus, qu'il n'a pas dépensé les soyeurs, que. Mmh. Voilà.
On parlait en préparation du podcast aussi d'un autre système qui est celui de Black Book, où là ils disent que ça va sortir, mais par contre ils ne donnent pas de délai. Donc voilà, s'engagent sur une sortie, par contre, donc c'est déjà bien, enfin c'est cool, mais par contre ils ne s'engagent pas sur les délais. Donc ça peut être long, quoi. Ça peut être jusqu'à 10 ans, 7 ans, tu peux attendre ton livre longtemps. Bon après, en même temps, plus on passe de temps à préparer un projet, enfin moi je préfère quelqu'un qui passe du temps à préparer un projet. Et au moins le projet, quand il sort, j'en suis satisfait, plutôt que de le sortir à la va-vite pour satisfaire les backers et du coup se retrouver avec un truc décevant. Je pense que même pour eux, ils engagent leur réputation, tu vois.
On entend beaucoup ça, ouais, même sur notre forum ou sur d'autres projets, qu'ils préfèrent qu'on prenne le temps de le faire et de faire un produit de qualité, quitte à ce qu'on se prenne 6 mois dans la vue. Mais pour sortir vraiment un truc super, que sortir la va-vite, le bâcler, et puis hop, c'est bâché, quoi.
L'autre dérive que je vois, bon, il y en a pas mal, hein, des exemples de jeux qui ne sont jamais sortis, on va peut-être pas non plus les citer, je sais pas. C'est le risque.
Je fais un peu de pub, je crois que dans le dernier numéro de Dissident, ils font un top, je crois, des.
Ah ouais?
Ils font un top des retards sur les souscriptions, ouais.
Les salauds, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Une autre dérive, c'est le fait que du coup, puisque c'est des internautes qui choisissent des objets sur lesquels ils souscrivent, on se retrouve finalement avec une offre sur le marché qui correspond absolument à la demande. Et ça, moi, je trouve ça affreux. Alors toi, ça a pas l'air de te. Moi, je trouve ça horrible. L'idée qu'on va attendre des éditeurs exactement ce que les gens demandent, je trouve ça horrible. Parce que je pense que les rôlistes ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont pas en fait... Et en fait, tu sais pas, par exemple, qui pouvait savoir qu'il attendait Vampire la Mascarade quand Vampire est sorti? Personne. Personne ne sait. Tu vois, les véritables choses qui nous bouleversent, les jeux de rôle qui sont sortis et qui nous ont bouleversés, ce ne sont pas des jeux de rôle qui étaient attendus. Justement, c'était des jeux de rôle qui venaient de nulle part, on s'attendait pas du tout et on s'est pris une vraie claque. Par exemple, si on avait attendu que quelqu'un finance le jeu de rôle D&D de Gary Gygax, on aurait pu attendre longtemps. Hein. Tu vois, on n'aurait jamais eu ça, quoi. Les grandes nouveautés, les grandes innovations ne se font jamais parce que la foule les demande. Elles se font parce qu'un auteur complètement cinglé, à un moment donné, décide d'avoir une idée. Et de la. Et alors, ok, d'accord, il y a des idées qui se vendent bien sur Internet, mais est-ce que toutes les idées sont vendeuses sur Internet? Par exemple, moi, je dis, bonjour, je m'appelle Vincent Baker, je voudrais faire un jeu sur les Mormons où on va dans des villages. Non, mec, je suis désolé, mais moi, je suis pas Mormon, je donne pas à ta communauté, quoi. Et casse-toi. Tu vois, je veux dire, ça peut aussi provoquer ce genre de réaction. Alors qu'en fait, Dogs in the Vineyard, c'est un jeu qui révolutionne le style.
En plus, je trouve, pour abonder dans ton sens, que bien souvent, sur le jeu de rôle, c'est plus un objet, en fait, qu'on décrit. c'est pas, t'as pas toujours un kit d'initiation, si tu veux, qui va avec, qui pourrait un peu te présenter l'univers et le système. Mais par contre, tu vas souvent avoir des belles illustrations qu'on va te montrer pour te montrer à quoi va ressembler l'objet au final.
Donc au final, vous êtes d'accord sur ce point-là ? Ça vous...
Moi, je dis que si l'œuvre est géniale et que le mec a une super idée, elle finira par sortir de toute façon. Mais même si c'est pas financement participatif ou quoi, et ouais, mais... si ça doit percer, ça percera. Quoi.
Une bonne idée trouve toujours la force de se réaliser.
Je suis pas sûr.
Bon, après l'argument que je viens de donner, parce que bon, je pensais que ça inviterait à la contradiction. J'ai souvent ça, hein, je sors des trucs puis j'attends qu'on me contredise. L'argument qu'on peut aussi, pour me contredire, on peut aussi dire, mais en fait, il y a plein de projets qui se seraient jamais faits si jamais, inversement.
Oui,
tu vois,
bien sûr.
Genre Shan, voilà, exactement. Après tout, ça peut paraître une idée complètement folle de ressortir un Shan avec un nouveau système. Et pour l'avoir testé il y a peu de temps, moi je sais maintenant que en fait, ça valait le coup de refaire un système et qu'en fait, c'est un autre Shan. Alors ok, vous êtes servi du nom Shan, vous avez repris beaucoup de choses de l'univers et tout, mais c'est un autre Shan, c'est un nouveau Shan qui, là oui, pour le coup, c'est vraiment une renaissance.
C'est la renaissance.
Ouais.
Mais en fait, oui, finalement, quand on y réfléchit, c'est presque étrange que t'aies des vieux jeux qui sortent comme ça, en fait. Quand tu y réfléchis bien, c'est des jeux qui pourraient peut-être, justement, ce sont les jeux qui pourraient se passer d'un financement participatif.
Shan.
Non, mais les jeux qui sont réédités.
Tu veux dire des jeux à licence.
Tu vois. Restons sur les deux pattes avec Ars Magica, par exemple. Je me dis, si Ars Magica revient, c'est un jeu qui a une certaine renommée, les gens s'en souviennent, tu vois, même s'ils n'y ont jamais joué, il y a des bonnes critiques autour du jeu. Est-ce que s'il était passé par un modèle traditionnel, est-ce qu'il n'aurait de toute façon pas fonctionné ?
En fait, moi, au-delà de ça, je pense que le but, enfin, le rôle d'un éditeur, c'est de prendre des risques. C'est d'évaluer le marché pour voir ce qui peut fonctionner à un moment donné et de prendre les risques de suivre une ligne éditoriale et d'éditer des auteurs. Et aujourd'hui, moi, ce que je trouve, c'est que la souscription, en fait, enlève tout le rôle. Leader, il y avait deux rôles, prendre des risques et participer financièrement à un projet. Aujourd'hui, c'est des backers qui participent financièrement et il prend plus de risques puisqu'en fait, il sait exactement ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Il a même pas besoin de faire des études de marché. Il sort son jeu en subscription puis il sait si ça va marcher ou pas. Et ça marche pas, bah c'est pas grave. Tant pis, ça se fait pas. Voilà, du coup, l'éditeur.
Tu te demandes quel est le rôle de l'éditeur ?
Ah bah oui, complètement.
Ça c'est dans le cas où le mec a pas bossé sur son jeu avant de le balancer en souscription. Parce que s'il a déjà bossé sur le truc, il a déjà un produit à peu près fini qui présente est-ce que vous voulez le financer,
ouais.
Il aura de toute façon pris le risque de passer du temps dessus et de...
La souscription tue quelque part, enfin, voir des éditeurs faire des souscriptions, je trouve ça vraiment très étrange, à la limite, en fait, à la limite même de la négation de soi, c'est-à-dire on fait des souscriptions, pour moi c'est un truc d'auteur de faire des souscriptions, c'est un truc de gens qui proposent un projet, qui ont envie de le réaliser sans éditeur justement. Voir des éditeurs qui font des souscriptions, pour moi ça ressemble à une étude de marché déguisée, une manière de vendre du collector sans se faire trop suer. Je trouve que c'est nier son propre rôle d'éditeur, parce que au final oui d'accord, tu choisis les jeux que tu mets en souscription. D'accord. Alors là, tu fais un travail de ligne éditoriale, tu vas choisir. Ouais.
Ouais, mais après, l'éditeur, il fait aussi pour mettre en contact avec des illustrateurs, des maquettistes,
Oui. Toi, t'as un réseau, moi j'ai un réseau, on a tous un réseau, on est tous capables de se mettre en contact avec des illustrateurs, de les payer.
On fait tout nous-mêmes. Donc...
Voilà, les relecteurs, c'est facile de trouver des relecteurs et de faire. Enfin bref, si un éditeur, c'est pas un mec qui a une ligne éditoriale qui prend des risques financiers et qui prend des risques financiers sur certains projets et qui inversement fait des projets pour vendre de façon à pouvoir justement prendre des risques financiers, je vois plus ce que c'est qu'un éditeur. Et dans ce cas-là, je me dis, un éditeur qui va sur du financement participatif, c'est juste un gars qui propose de prendre des thunes sur des auteurs qu'il propose de mettre sur des plateformes de financement participatif. En gros, une sangsue. Non mais soyons clairs, moi je vois pas l'intérêt. J'ai du mal à comprendre. Donc je suis éditeur, demain, je fais du imaginez. Enfin, pourquoi j'aurais besoin de la cause, je m'appelle Romaric Briand. Pourquoi j'aurais besoin des ludopathes pour mettre un projet en souscription ? Je me mets en souscription, point barre.
Ah oui.
Bah oui, donc c'est, donc ils servent à rien.
Bah ils servent à rien parce que toi tu fais tout tout seul.
Ah bah non, mais attends, avec une souscription, dans ta souscription, il y a moyen, enfin ouais, d'accord.
Nous c'est pareil, on fait tout tout seul, mais
ouais.
D'accord, ok. L'éditeur, il a un rôle de conseil, de mise en relation. De...
Bon, j'invite les auditeurs à écouter le podcast où Sébastien Cellerin parle du rôle de l'éditeur et où, bien sûr, rajoute des compléments d'information sur tout ce que je dis. Mais moi, vous savez, mon but, là, parce que je vous vois là, tous médusés par ce que je raconte, mais mon but, c'est de faire du troll, hein, et puis de vous faire réagir, là. Et ça réagit pas des masses, hein. Donc, je fais ce que je peux.
Pour nous faire réagir.
Ben oui. T'es furieux par rapport à ce que je viens de dire?
Non, je suis pas du tout furieux. Non, mais je me pose la question autrement. C'est-à-dire que je suis pas forcément d'accord sur le risque financier. Parce que c'est ce que je te disais. Si finalement, il y a un accord commun entre les éditeurs et les acheteurs, si tu veux, pour faire de la vente directe, parce qu'il y en a qui aiment les goodies et d'autres qui aiment pas les banquiers, finalement, pourquoi pas? Maintenant, mais la question que je me pose, c'est à partir du moment où t'as une avance de trésorerie comme ça, parce que c'est vraiment une avance de trésorerie, et qu'un éditeur ne peut pas s'avancer sur une date de sortie sur un jeu, si tu veux, je me pose la question, si tu veux. C'est, moi, je souscris le jour où l'éditeur me dit, dans 6 mois, le jeu, il est sorti, tu vois. Si le jeu a 3 à 4 mois de retard, c'est comme ça, quoi. Mais toi qui s'engages sur une date de sortie, s'il n'est pas capable de le faire, bon, ben, finalement.
À quoi lui sert ce rôle de conseil et ses relations avec l'illustrateur s'il n'est pas capable de sortir un jeu dans 6 mois, quoi. Ouais. Enfin, c'est ça que t'es en.
Oui, c'est un peu ça. Bah, nous, on s'est engagé sur une date de sortie, donc on est en retard, évidemment. Mais, on est dans un retard programmé, normal, quoi. C'était, ouais. Mais voilà, c'est-à-dire, au départ, on s'était quand même engagé sur une date de sortie pour le jeu. Les PDF étaient livrés en temps et en heure, ouais. Ceci dit.
Moi, je trouve ça magique, hein, pour les
éditeurs. Après, voilà, on a eu des soucis d'impression, tout ça, de numéro ISBN, tout ça.
Ouais, bon. C'est-à-dire qu'aussi, le fait de débloquer autant d'argent nous a permis justement de financer, parce que dans les paliers, il y avait aussi un palier pour financer plus d'illustrations en couleur. Et, mais ces illustrations, quand on les a financées, bah, faut les faire ensuite. Donc, il faut trouver les illustrateurs, leur les briefer sur les machins, qui bossent sur les illustrations. Ok, c'est bon, des retouches, des machins. Mmh. Donc, ça prend du temps aussi. Donc, fatalement, plus tu débloques de choses à fabriquer, genre 280 cartes pouvoir à maqueter, bah, ouais. Ça prend du temps aussi.
Bien sûr.
Donc, tu te prends automatiquement un délai du fait que tu as plus de choses à faire.
Bien sûr. Ouais. Donc, tu peux pas promettre automatiquement parce que tu sais pas en fonction.
Tu sais pas qu'est-ce qui va finalement être débloqué.
Bon, une réponse aussi qu'on peut faire par rapport à l'attaque que je fais sur les éditeurs qui souscrivent, qui font des souscriptions pour des auteurs sur des. C'est que malgré tout, ils engagent leur logo et leur réputation. Oui. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, la réponse, elle est là. C'est qu'en fait, le logo ludopathe rassure. Alors, à tort ou à raison. Mais le logo ludopathe ou le logo d'un éditeur connu, reconnu, qui va distribuer en boutique, rassure le souscripteur parce qu'il se dit, bah, ces mecs-là, ils engagent leur réputation. Bon, c'est plus compliqué que ça en réalité, mais bon, voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça que c'est plus intéressant de passer pour un éditeur pour faire une souscription.
Ouais, après, tu peux te poser la question différemment. La souscription, enfin le financement, est-ce que tu finances un projet ou est-ce que tu finances un salaire pour le mec qui fait le projet? Tu vois, c'est.
Bah oui, là par exemple, vous dites bien, vous financez du matériel.
La fabrication.
Ouais. Et après, vous payez en droit d'auteur sur ce matériel.
Mais voilà, tu es auteur et tu finances ton projet. Si tu veux, si tu débloques une somme, effectivement, tu peux aller te payer un maquetteur, tu peux aller te payer des illustrateurs. Enfin, tu vois, si toi, tu veux pas forcément te tirer de salaire derrière, voilà, c'est. Si derrière, tu cherches à te tirer à salaire ou à faire vivre une structure, c'est différent. Je pense que tu vas raisonner aussi différemment.
Il y a un risque de cramer l'argent plus vite. Quoi.
D'accord. Ok. Les dérives de ce système, on en a plus ou moins parlé. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez ajouter? Est-ce que vous voyez d'autres? Je crois qu'on a fait le tour.
Ouais.
En tant que backers, hein, du coup, ça vous est déjà arrivé de faire de donner de l'argent à des. De faire du mécénat?
Non, aussi pour Shan.
D'accord, ouais.
Mais dans l'intention, moi, oui, parce que sur le principe, c'est sympa, surtout sur des trucs où on sent bien que c'est pas forcément un gros projet d'édition, donc on se dit tiens, c'est pas mal. Par contre, je dois être un peu obsolète parce que je passe toujours à côté des souscriptions. Je les découvre tout le temps.
Tu les découvres en retard.
Elles sont terminées. Donc c'est peut-être une dérive ou une limite du système aussi que moi aussi j'aime bien acheter en magasin, voir le gars, discuter, tout ça. Voilà, qui fait que je vais passer à côté de plein de trucs qui pourraient m'intéresser, mais parce que je les cherche pas, que je suis pas de newsletter, je fais pas de site, je fais pas de voilà.
Un truc aussi qu'il faut savoir sur le jeu de rôle, c'est que c'est souvent de la longue traîne. C'est-à-dire que c'est des jeux qui vont se vendre pendant des années, à petite quantité, à quantité réduite. Tu vas vendre un Sens Renaissance tous les mois. Moi, en l'occurrence, j'en vends pas un tous les mois, j'en vends au moins trois ou quatre tous les mois. Mais voilà, c'est ça. Et tous les mois, tu vas avoir des ventes comme ça, petit à petit. Ça va pas être... par exemple, le Val, c'est totalement différent. Le jeu de société, c'est totalement différent. Tu vas en vendre énormément quand ça va apparaître sur Trick Track. Tu vas avoir une énorme quantité de ventes. Et puis, au fur et à mesure, tu vas en avoir de moins en moins. Et en deux ans, t'en vendras plus. Alors que par exemple, du jeu de rôle, t'en vends pendant très très longtemps. Donc aussi, je pense que du point de vue du financement participatif, faudrait voir si le jeu de rôle peut être maquetté, marketé, je sais pas comment dire, pour le financement participatif, mais proposé de façon différente que des autres. Est-ce que le jeu de rôle, ça mériterait pas d'avoir un an de souscription possible? Enfin, je sais pas où...
Ouais, encore, là, c'est compliqué. Une fenêtre de tir assez réduite, hein, 2-3 mois. Ça
2-3 mois pour un jeu de rôle.
Oui, faut vraiment suivre l'actu du sujet, sinon tu
peux être vraiment passionné du truc, quoi.
Ouais.
Là, c'est chaud. Et en tant que biker, toi, t'en es pas, en fait.
Non.
Ça, c'est bon, ça. C'est, tu suis la vieille règle de. Comment il s'appelle, là, ce film, The World is Mine. Faut que tu vends de la cocaïne, mais t'en consommes pas, quoi. C'est-à-dire que tu... le truc avec Al Pacino, là, je sais plus comment ça s'appelle. Scarface.
C'est, ceci dit, par rapport à ce que je pense, Shane se retrouve en boutique, hein, quand même. Mais bon, c'est... voilà, c'est... On pourra quand même l'acheter en boutique. C'est pas... Après, je suis pas l'unique décisionnaire non plus. Après, voilà, il y avait tout un projet derrière.
C'est marrant, quand même. On a trois personnes autour de cette table. Toi, tu es backers, Julien, non. Sur des trucs? Putain, c'est dingue, on a trois personnes qui nous parlent du financement participatif, en fait, aucun d'entre eux n'est backer.
C'est parce que ça m'intéresse aussi, le financement participatif. Enfin, tu vois, le...
Oui, le principe, le principe, le tout ça.
La différence entre projet et précommande, si tu prends le magazine Dissident, par exemple, tu as un financement participatif pour sortir le premier numéro, qui a juste permis d'amorcer le magazine, et depuis, voilà, tu as eu juste un financement pour le premier. Tu avais le premier numéro en contrepartie, mais tu aidais au projet de création d'un magazine, si tu veux, qui après n'a pas toujours fait appel à du financement participatif. Chahan, il y avait un projet de gamme derrière. Mais si voilà, tu te retrouves à juste sur une précommande, comme moi, enfin, j'aime bien les beaux livres de jeux de rôle, mais les goodies ne m'intéressent pas. J'aime juste les beaux livres, en fait. Est-ce que, enfin, ça m'intéresse pas non plus spécialement, quoi, de faire une précommande.
Julien, tu veux ajouter
sur Shane, il y a justement aussi ce côté lancer la machine, parce qu'on compte bien continuer à faire vivre le projet sur Internet principalement, et d'avoir ce financement de départ pour sortir les bouquins en dur, c'est pour nous, on espère que c'est le début d'une longue aventure aussi, quoi.
C'est vachement intéressant. Il y a une mode en ce moment en politique qui s'appelle la mode des primaires. Je sais pas si vous êtes au courant. Tous les partis politiques organisent maintenant des primaires pour présenter des candidats, alors à droite, à gauche. Ça peut être pour la présidence de tel parti, ou au contraire pour la présidence carrément de la République. Et ils constatent, en fait, on constate que les primaires créent des phénomènes de siphon, en fait. Que ça crée des engouements pour des projets. Et par exemple, quand tu vois pour Shane, en fait, le fait de lancer en souscription et d'obliger des gens à voter, parce qu'en fait, des backers sont des gens qui votent pour des projets, en fait. Ils ont un capital donné pour le jeu de rôle. Tu vois, par exemple, on sait maintenant que Marc, il a 400 euros tous les mois pour donner pour le jeu de rôle. Je vais me dire que je vais lui en vendre des sens après, tu vois. Je vais pas hésiter, quoi.
Déjà vendu, non?
Ouais, j'en ai déjà vendu. Non, mais tu vois, et après, tu votes, en fait, pour les projets qui t'intéressent. Et du coup, t'as un phénomène de primaire, en fait. Les jeux, ils sont soumis, en fait, avec comme une espèce d'élection. Ils sont choisis par les gens du milieu du jeu de rôle pour. Et ça crée une dynamique, en fait, ce qui fait que ça fait parler de Shane. Parce que, donnant de l'argent pour un projet, les gens sont beaucoup plus enclins à en parler positivement. Même s'il n'est pas déjà sorti.
Oui, bien sûr.
Ça, on le constate tout simplement, par exemple, si tu prends des magazines que tu donnes à la sortie du métro, tu les donnes. Les gens ne les lisent pas, ils foutent à la poubelle. Tu les fais payer 50 centimes ou 1 euro, ils vont les lire et ils vont les trouver intéressants. parce qu'ils ont donné quelque chose, ils ont fait l'effort de donner quelque chose. Et je pense que on sous-estime l'influence sur le jugement des gens, des produits qu'ils consomment de cette manière, du côté j'ai donné pour lui. Donc, comme j'ai donné de ma personne pour ce projet, comme j'ai donné un truc, eh ben j'aurai forcément un avis positif à son égard.
Si ça se passe bien.
Si ça se passe bien, ouais. Non, mais évidemment, si tu vends des trucs n'importe comment, évidemment, mais si le projet est un minimum, je pense qu'il y a moyen d'avoir un bonus d'engagement des gens qui consomment ce jeu parce que ils font partie des gens qu'on donnait à la base.
Ouais.
Un bonus d'investissement, tu vois. Moi, je l'observe aussi pour Sens. Les premières personnes qui se sont investies dans Sens, qui ont cru, qui ont été les premiers à acheter des bouquins, c'est encore les gens qui aujourd'hui viennent parler sur les podcasts, continuent à faire des trucs. Il y a certains meneurs de jeu qui ont 7, 8 tables. Enfin, c'est incroyable. Mmh. Et ce sont toujours ces gens qui sont parmi les premiers et qui peuvent se dire, bah, c'est grâce à moi, tu vois. Aujourd'hui, c'est grâce à moi si ce jeu de rôle existe. Et je pense qu'il y a un vrai, tu vois, ben c'est un peu comme en politique, cet engouement, tu vois, pour les primaires. J'ai aidé un candidat à accéder, donc à la présidentielle, je voterai pour lui et je serai d'autant plus engagé pour lui que je l'ai aidé dans son ascension au pouvoir. Et je pense que ça, c'est encore des phénomènes qu'on observera à l'avenir, je pense. Sur Shan.
Et toi, en tant qu'auteur indépendant, tu vas passer par le financement participatif un jour
oui,
ou l'autre ?
Oui, j'y pense très fortement. On est en train de discuter avec Valérie et Darky, notamment pour le projet du jeu vidéo Le Val. Mais tu vois, moi, c'est toujours dans le jeu vidéo. Tu vois, tout ce que j'ai raconté là, toutes ces analyses, moi, je les tire plutôt du jeu vidéo que du jeu de rôle. J'ai jamais été souscripteur pour un jeu de rôle.
Et pourquoi ?
Ah bah, c'est dû à ma position. Parce que en tant qu'éditeur, je rencontre tellement d'auteurs qui viennent me présenter des jeux pour la cellule, que du coup, j'ai plus trop besoin d'aller chercher les jeux moi-même. Les jeux, ils viennent à moi, je rencontre des auteurs, je joue à des jeux. Et d'autre part, j'ai plus le temps de m'investir autant dans un jeu aujourd'hui que j'en teste plein. À part les miens, bien sûr, qui me coûtent énormément de temps en playtest et tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un manque de temps, en fait, tout simplement. Hein. C'est pas... J'adore le jeu de rôle, j'aime tout ce que les gens qui font des jeux de rôle en font, bien sûr. Mais j'ai plus le temps de m'investir, tu vois, autant. Là, aujourd'hui, tu vois, voilà, je vous reçois, on va jouer à Shan. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est. Les choses viennent à moi, donc j'ai pas besoin d'aller chercher sur Internet et d'aller souscrire. Donc, mais tu vois, c'est très personnel, là, hein, tu me poses une question. Mes amis, par exemple, qui sont pas dans cette situation, eux, ils le reçoivent et ils backent. Ils vont chercher des projets, ils s'investissent, bah tu vois, comme Thomas Poussou par exemple, qui s'était investi dans Manga no Tetsu à l'époque sur les ludopathes et qui était bien déçu, bien déçu. Et ça l'a dégoûté, hein. Franchement, ça l'a vraiment dégoûté quoi. Il a eu l'occasion plusieurs fois d'en parler à Monsieur Bruzo et aux ludopathes, ils sont plutôt musclés, donc et c'est voilà, ça l'a vraiment dégoûté de la souscription. Et je pense que heureusement, ce sont des cas isolés. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a quand même pas mal de respect, parce que on engage, comme vous disiez, on engage sa réputation, on engage parfois ses proches et tout. Donc voilà.
Puis comme tu le disais, dans le milieu du jeu de rôle,
tout le monde se connaît. Voilà,
ceci dit, bon après,
ce qui est un problème
la souscription,
aussi, hein.
Ce n'est pas que dans le jeu de rôle, mais je veux dire, quand tu souscris pour le cinéma ou la musique, c'est quand même autre chose.
Tout à fait. Voilà. Mais c'est, dans le jeu de rôle, le fait que tout le monde se connaît, c'est vraiment un problème, parce que ça empêche.
Un avantage pour la souscription.
Ouais, moi je pense. Ouais, mais ça nous empêche aussi de notre liberté de parole. On peut pas dire tout ce qu'on veut. Bah, tu vois, je disais, le Grumpf, voilà, je le connais personnellement. Prochain jeu qui sort, c'est de la merde. Ça va être difficile sur la cellule de dire, écoute, c'est de la merde pour telle raison, machin. Ça va être difficile parce que je le connais personnellement. Ça va être difficile. Je vais le faire, mais ça va être difficile.
Tu n'y prendras aucun plaisir.
Je n'y prendrai aucun plaisir. Non, contrairement à ce que disent certains sur Internet, je ne prends aucun plaisir à faire des critiques négatives. Ça fait chier, mais faut le faire. Parce que si on n'est pas honnête, eh ben, ça finit par nous retomber toujours sur la gueule. Et c'est valable aussi pour les souscriptions. C'est aussi à vous, backers, de dire quand les choses se passent mal, de façon à pourrir définitivement les éditeurs qui pourrissent les gens sur les retours, de pourrir les auteurs qui tiennent pas leurs promesses. De les pourrir, mais vraiment, quoi. D'arrêter qu'ils fassent des souscriptions. Parce que vous, en ne disant rien, en entretenant l'omerta, eh bien, vous entretenez l'arnaque, en fait. Et l'arnaque, c'est mauvais pour le jeu de rôle. Si vous aimez le jeu de rôle, vous devez à tout prix dire quand il y a des arnaques et le dire haut et fort. Parce que, je sais pas ce que t'en penses. Enfin, Vincent, non, t'es pas d'accord avec ça?
Si, je pense que c'est pas évident, mais.
Non, c'est pas facile parce qu'encore une fois, tout le monde se connaît. Mais il faut
ouais,
dire.
Enfin, tout le monde, non, faut, on peut pas tout résumer à ça. Tout le monde se connaît pas forcément, si tu veux. Mais si tu fais pas de convention et que justement tu ne connais personne et que le seul moyen que t'as de râler, c'est d'envoyer un mail à l'éditeur qui ne va pas te répondre, tu vois, c'est.
Utiliser Facebook. Facebook, y a pas moyen de supprimer les messages. Donc, ben non, je crois pas. Hein. Un éditeur.
Si.
Ah non,
ah,
je crois
si,
que.
Je t'assure.
T'es sûr?
Ah oui, c'est sûr. Si tu vas, tu peux essayer. Si tu publies un message sur la page de Shahan, je suis modérateur, je peux le supprimer.
Ah ouais, je vais te poster un message. Sur la...
petite insulte gratuite.
Petite insulte gratuite pour test. Test. Eh, hey, bande de pauvres cons, votre jeu c'est de la merde. Bande de racistes. C'est un truc à la con comme ça. Et tu pourras le supprimer.
Je pourrais le supprimer, oui.
Putain. Tu supprimeras peut-être mon message, mais moi tu ne me supprimeras jamais. Putain, avant, mais je pensais pas, tu vois, je pensais que Facebook c'était indélébile.
Okay. Il faut avoir un compte Facebook quand même.
Ouais. Il faut aussi avoir un compte Facebook. Alors, c'est vrai que si en plus tu souscris pas et que t'as pas de compte Facebook,
bah ouais, alors là,
tu souscris, t'as pas de compte Facebook.
Enfin voilà, en tout cas, clairement.
Encore dans une boutique.
Clairement, en tout cas, c'est un modèle qui repose sur la confiance des acteurs entre eux. Ouais. Et donc, du coup.
Mais je suis pas sûr de ça, vraiment pas.
Ah ouais, non.
Non, vraiment, je suis pas sûr. Quand on voit des retards qui se sont accumulés et des souscriptions qui sont quand même enchaînées avec succès, je suis pas sûr que la confiance joue énormément.
Ou ouais, alors peut-être un côté très compulsif aussi, des gens qui cliquent et qui achètent. Tiens, ouais, hop.
Attends, c'est n'importe quoi ça.
Enfin... Ouais, mais ça, je pense qu'il y en a.
C'est rationnel.
franchement. Acheter via PayPal, c'est trois clics hein, quand même. Hein. Ouais. Le côté compulsif, il peut vite arriver quand même.
Bon, d'accord.
Bon, pas à 150 euros peut-être, mais 15, 20 euros, 30, tu dois. Ouais,
mais dans tous les cas, il y a quand même un moment donné où si t'as pas le produit, t'es dégoûté, t'es vénère, quoi.
Ouais, bah tu vas souscrire chez un autre éditeur.
Ouais, c'est
oh
ça,
non, mais c'est un scandale.
Si t'as fait 20 souscriptions et que t'en as reçu que 15, voilà.
Je connais des gens qui ont 3, 4 souscriptions, qui n'ont toujours rien reçu, quoi. Et puis s'il y en a une autre qui sort, le jeu les intéresse, ils vont
mais
aller
est-ce que,
souscrire.
Est-ce que vous croyez pas non, mais attends, mais est-ce que vous croyez pas que ça, c'est dû à la modernité du truc? C'est-à-dire que voilà, c'est moderne, c'est récent,
ça,
c'est le financement participatif.
Ça, c'est possible.
Et au bout d'un certain moment, bah, à force que des éditeurs ou des auteurs n'honorent pas leurs promesses, et ben, il y aura plus personne. Regardez-vous, déjà. Vous backez plus, déjà. Vous backez pas, vous.
Ouais,
pourquoi? Pourquoi t'as jamais backé? Hein? Parce que justement, t'as peut-être ce doute, déjà. Parce que en tant que personne, c'est bizarre quand même, pourquoi vous avez jamais backé? Vous utilisez un système que vous n'utilisez pas en tant qu'acteur, c'est bizarre.
Mais moi j'aurais bien aimé, mais tu vois, à chaque fois je suis tombé dessus.
Trop tard.
Trop tard. Ah tiens, c'est fini.
Bon bah. moi je pense que c'est parce qu'en tant qu'acteur, vous en connaissez les dérives, vous connaissez aussi le modèle et vous savez que ça peut. C'est à double tranchant. Vous,
c'est
vous êtes
risqué.
Non, mais moi j'aurais pu. Là, je sais que récemment, il y a eu une souscription pour Pandragon, c'était vraiment pour continuer la gamme
bah voilà,
qui a failli s'arrêter. C'est-à-dire si l'éditeur l'avait annoncé, si jamais la souscription va pas au bout, la gamme Pandragon s'arrête quoi, si tu veux. Et je m'étais dit voilà, pour continuer la gamme, s'il le faut, voilà, le dernier jour j'irai et pourquoi pas je souscrirai quoi. Bon, coup de bol, du coup ça s'est fait, il a débloqué les paliers, donc du coup j'ai pas souscrit quoi, si tu veux. Mais non mais si tu veux,
pas de bol pour l'auteur, tu n'auras pas l'argent de
mais
Vincent.
Non,
voilà,
mais c'est pas ça, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Je suis prêt à souscrire pour un projet, mais pas pour une précommande.
D'accord. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, en fait, c'est pour ça que tu vas dans les boutiques au final. C'est parce que tu veux un objet physique.
Non, c'est parce que je veux rencontrer des gens. Je ne vais pas non plus aux caisses automatiques.
Attends.
Dans les supermarchés, oui,
non,
ou aux
non,
caisses
non,
automatiques
non,
dans les stations essence.
Ce
tu
qui
vois,
est intéressant, c'est qu'on retrouve quand même un discours. C'est-à-dire que toi, tu soutiens des projets, mais tu n'achètes pas sur Internet. Alors, OK, il y a cet aspect humaniste, tu veux. Mais c'est peut-être aussi parce que tu as peur de ne pas recevoir l'objet que tu payes sur Internet.
Oh non,
non. Non, pas du tout.
Enfin, non. Oui, bon, pour les souscriptions, effectivement, t'as un risque, mais bon.
Tu joues un peu à la roulette avec la souscription, quand même.
Oui, c'est vrai. Mais c'est pour l'instant, tous les projets sont plus ou moins sortis, avec après un des dizaines de retard, mais je sais pas. C'est... Oh, peut-être pas un des 10 quand même.
Des 10 années.
Des 10 ans, j'y vais un peu fort là quand même. Mais,
ah, sinon, on n'aurait pas de retour déjà.
Mais je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête de jeux de rôle qui ne soient pas sortis. Si tu veux. Enfin, j'ai de jeux de plateau, ou, enfin, voilà, mais des jeux
collector,
de rôle.
Mangano Desetsu en collector, il est sorti pour les souscripteurs.
Bah, ça, je sais pas. Je sais que le jeu est sorti, mais le collector après c'était.
Ouais. Enfin, en tout cas. Merci à vous de nous avoir fait partager cette expérience en tant que scripteur. Moi, pour répondre à ta question quand même, pour le Val, Nous, notre modèle, c'était de commencer à penser le jeu vraiment en amont, voire même de le faire intégralement, et de nous payer en faisant des souscriptions. Nous, c'était, nous, ce qu'on va souscrire, c'est le salaire, en fait. C'est pas du tout... c'est pas vraiment le jeu, si tu veux. C'est plutôt les heures de travail qu'on a mis dedans.
Mais est-ce que t'as pas peur de tomber dans le clientélisme ?
Ah, c'est-à-dire ? Comment ça ?
Bah, c'est-à-dire, ils ont payé. Ils ont payé ton salaire. Tu es leur employé. Tu es moins indépendant.
Bah non, puisque le jeu, on l'a fait... Mais non, parce que...
Non, mais...
Ouais, ah, d'accord, ouais.
Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, oui, d'accord. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, tu deviens esclave de tes mécènes parce que tu fais...
Bah, tes mécènes deviennent tes employeurs, en fait. Quelque part, je veux dire, sur...
Ouais, mais bon, à partir du moment où tu fais ça que sur... À partir du moment où tu fais ça que sur un projet, pas sur
ouais,
tous...
Mais attention, c'est comme la drogue, une fois, deux fois... Et puis...
bah, tu vois, ça, tu vois, encore une comparaison un irisant, de participatif avec la, la cocaïne, encore. Putain, c'est dingue, ça. Ouais, c'est... Ouais, ok. J'avais pas pensé à ça, tu vois. Non, mais nous, ce qu'on avait pensé, c'était juste l'idée de... Moi, j'ai pas les moyens de payer un administrateur. Vraiment, au pire. Enfin, j'ai pas les moyens de payer Valère pour un jeu vidéo au prix où il devrait. J'ai pas les moyens de, pas les moyens de payer mon infographiste pour faire un jeu vidéo au prix où je
devrais. On a fait pareil, hein, la souscription, t'avais des paliers d'illustration hein, sur Shan. Des paliers pour qu'on puisse payer des illustrateurs pour nous faire.
Donc, du coup, je trouvais que c'était une bonne idée. Après, maintenant, je vais y réfléchir du coup. Merci. Merci à vous d'avoir, d'avoir participé à ce podcast, de nous avoir éclairé sur votre expérience. 30 000 euros récupérés pour Shan, c'est un chiffre conséquent. On retiendra aussi 250 exemplaires de Shan vendus en 3 mois. C'est quand même assez incroyable. Il y a des beaux chiffres hein, pour cette souscription. On sait aussi que c'est un bon jeu, donc n'hésitez pas à l'acheter dans le commerce. Voilà, moi, je vous fais un peu de pub. Comme
ou en ligne, hein, vous avez toujours une boutique en ligne si vous voulez. C'est...
Tu peux... ouais, d'accord, ok.
Vous on aurez une meilleure marge en ligne. Donc vous voulez... J'arrête pas de te dire qu'il faut aller dans les boutiques. Mais...
Ouais, c'est bien. Il est bien le mec là, il est cohérent.
Ouais, mais pas pour Shan.
Oh putain, c'est magnifique. Donc voilà. Donc si vous voulez soutenir la team Shan, vous savez maintenant comment faire. Merci d'être venu. À bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À bientôt tout le monde. À jeudi prochain pour un prochain podcast. Salut.
Ciao, ciao.